vous allez entendre un message de William Branham prêché le 1er janvier 1956 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Le voile intérieur » ou « Le repos intérieur ».
Regenerated men and women who has accepted God and got eternal life dwelling in them. They must see that to be in the courts. Then they come to the first altar. In the first altar is where they burnt the sacrifice and where the Lord met them there in forgiveness of sins and cleansed them from all their sins.
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher. Puis vous entendrez la traduction française de ce message.
Entered into the presence of God. And while they were in there, there's where they had all these glorious things. It was very beautiful type that in there anything dead come in and lived again. Did you ever think of that? They took Aaron's rod and laid Aaron's rod in the presence of this holy place. And when they did, in one night time,
amen.
It budded, blossomed, and
grew
in one night's time. Think of it in the presence of God. This old dead rock, laying there in the presence of God. Budded, blossomed, and grew in one night. What was it then? What kind of rock was it? It was an elm tree rock. That's where you're taking it from. The stick was off of an elm tree. And you are a stick sometimes. And you were taking off the branch of humanity, which was God's creative son in the beginning. You may be fallen, dead, alienated from God, but by that in creation you were created to be a son of God.
Amen.
You may bounce around and be respected and honored out here in the courts, but if you ever get into that glorious place and hit away with God, you knew what you're supposed to do. Take a dead sinner. Alienated from God without hope, without Christ, and put him in the presence of God in this great glorious tabernacle in there, he will yield forth fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, long suffering. The dead rod budded. For it budded, it had to have refreshment. Had to be refreshed. Then after it was refreshed, it had to have for the odor, a perfume, the blossom. Then the next thing it brought forth was fruit. And every Christian comes the same way when he comes into the presence of God.
Je suis si heureux d'être au tabernacle ce matin. Un cordial bonjour à vous tous. Nous espérons que ce jour nous a trouvés encore au service du Seigneur. Lorsque nous avons levé nos mains, il y a un moment, combien ont pu chanter « Je suis si merveilleusement sauvé du péché ». J'étais si heureux. Le 100% d'entre vous, semblait-il. Partout, chaque main que je pouvais remarquer était levée. Je suis si merveilleusement sauvé du péché. Jésus habite avec une telle douceur au-dedans. Je suis si heureux de cela pour vous aujourd'hui. Maintenant, je crois que la sœur ici sur la civière est un petit peu au soleil. Elle aimerait peut-être qu'on la déplace un peu. Je ne sais pas si ça la gêne ou non. J'ai aussi remarqué que sa main était levée. Si merveilleusement sauvé du péché, Jésus habite avec une telle douceur au-dedans. Oh, n'est-ce pas merveilleux quand Jésus de Nazareth peut entrer dans nos cœurs, nous bénir et nous rendre comme nous devrions être.
Amen.
Il y a bien des années, nous avions l'habitude de chanter un petit cœur. Il me rend comme je devrais être. Sa grâce peut me purifier et me libérer. Quelque chose comme ça. Comme c'est merveilleux. Maintenant, juste avant que nous commencions l'école du dimanche, c'est à moi qu'incombe la tâche de venir enseigner l'école du dimanche ce matin. Ça m'a fait du bien, en entrant par la porte derrière, de les voir déposer ici les offrandes d'anniversaire. Cela me rappelle le bon vieux temps où le tabernacle venait de naître. Lorsque j'entends le pasteur bénir les gens, pour les années futures de leur vie et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux dans sa bonté. Maintenant, je crois que je dois des explications à ce tabernacle. Et c'est ici le premier endroit où j'annonce cela. C'est dactylographié et prêt à être expédié, mais je crois que j'aimerais le mentionner vu que c'est la nouvelle année. Non pas que ce soit un nouvel an, mais c'est un nouveau tournant dans le temps. Je crois que nous sommes en train de vivre en un jour merveilleux et glorieux, où l'occasion est donnée aux gens de voir les ombres de la venue du Fils de Dieu. Je crois de tout mon cœur que le monde va éclater maintenant dans le plus grand réveil, ou bien qu'il va sombrer dans le chaos le plus noir qu'on ait jamais connu dans l'histoire. Il est grand temps pour les gens de prendre une décision au sujet de ce qu'ils vont faire. S'il se trouve quelqu'un ici aujourd'hui qui ne se soit pas décidé pour Christ, j'espère qu'il le fera ce matin, qu'à un moment donné, pendant le service, vous direz dans votre cœur, « Oui, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour où je prends la décision de te servir le reste de ma vie. » C'est un jour merveilleux. Je suis sûr que nous avons eu sur les yeux un voile, même les croyants, qui nous a empêchés de voir ce qui se passe autour de nous. Et bien des fois, les gens conduits par l'Esprit sont mécompris, par les gens du monde, parce que c'est une vie tellement étrange et bizarre que de vivre une vie complètement abandonnée au Seigneur Jésus. Or, il y a quelques semaines, ou il y a une dizaine d'années, j'avais promis au Seigneur, lorsque je suis parti en 1946, lorsque j'ai quitté le tabernacle, que je le servirais de tout mon cœur au cours de ces campagnes, sachant qu'il allait se produire là-bas beaucoup de remous, parce que, et que beaucoup d'argent serait engagé, et ainsi de suite. Ainsi, je savais, pour l'avoir lu, que d'habitude, l'homme que le Seigneur bénit un peu, il y a environ trois choses principales qui généralement ramènent un serviteur dans l'ornière. Ce sont l'argent, les femmes et la popularité. Et ces trois choses, j'ai remarqué dans les Écritures que l'argent était représenté par le prophète Balaam, qui vendit ses dons pour aller contre une certaine somme d'argent que Balak lui offrit. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Pour Samson, ce fut Delila, la femme qui le courtisa sur ses genoux jusqu'à ce qu'il lui avouât les secrets du Seigneur. Et Saül, ce fut la popularité. C'était un prophète, la Bible dit qu'il était parmi les prophètes. Et par la popularité, il voulait être grand et au-dessus des autres. Il tomba. Et ce sont les trois causes principales que je vois dans la Bible qui ont provoqué la chute des hommes. Et j'ai demandé à notre Père Céleste de bien vouloir m'éloigner en tout temps de ces choses-là, spécialement de ces trois choses principales. Et je me suis montré très prudent à leur égard. J'ai fait à Dieu la promesse de ne jamais mendier d'argent lors des réunions. Et j'ai fait avec lui l'alliance que si jamais le moment arrivait où il ne subvienne pas à mes besoins au cours des réunions, par le simple fait de passer le sachet pour l'offrande, alors que je savais qu'il faudrait des dizaines de milliers de dollars puis arriver dans les grandes réunions, je cesserai alors de tenir des réunions à l'extérieur et je rentrerai chez moi. Ceci, il l'a fait miraculeusement sans qu'il ne fût jamais nécessaire de mettre l'accent sur l'argent, ni de faire pression. Trois ou quatre organisateurs perdirent leur emploi pour avoir fait un petit peu pression à propos d'argent, ce que je ne permettais pas. Je ne crois pas à cela. Les gens ici en ville pourraient croire, « Eh bien, le Seigneur nous a donné là une petite maison. » L'argent pour sa construction fut récolté en un soir. Quelqu'un va penser, « Oh, il est multimillionnaire !» J'aimerais seulement que vous sachiez la vérité. Voyez-vous, vous auriez une pensée différente. J'aurais pu l'être, c'est vrai, mais je, même sans mendier, les gens viennent simplement et disent, « Je vous donne ceci, frère Branham. » Mais je l'ai refusé, je n'en veux pas. Je ne veux rien avoir à faire avec cela. C'est corrompu. Je veux que mon héritage soit là-haut.
Amen.
Voilà que de jour en jour, voyant que de jour en jour les cheveux blancs se multiplient sur ma tête, et que je ne suis plus le jeune homme que j'étais lorsque j'ai commencé à prêcher ici, il y a 23 ans, je sais une chose, c'est que peu importe combien vous avez de ces choses, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait ensuite perdre son âme? Ainsi, j'ai vu cette malédiction et ces derniers jours, des pasteurs et des gens m'ont appelé pour me parler de différents drames familiaux et autres. Une dame m'a téléphoné un soir dernièrement. Elle a dit, « Je ne vous dirai pas mon nom. Mon mari est l'un des évangélistes au ministère de guérison bien connu. » Elle a dit, « Je l'ai surpris en train de commettre adultère avec une jeune fille âgée de 18 ans. » Elle m'a confessé qu'il le faisait depuis 2 ans. Elle ajouta, « Que dois-je faire, frère Branham ?» J'ai dit, « Je ne sais pas, madame. » J'ai dit, « Je prierai pour mon frère, pour son âme. » Et nous avons essayé de fuir de telles choses. Il m'a miraculeusement assisté et aidé jusqu'à ces 2 dernières réunions environ. Au cours de ma dernière tournée en Californie uniquement, lors des 2 dernières réunions, je me suis endetté pour 15 000 $. Ils me dirent, « Vous devez mendier, vous devez dire cela aux gens, ils veulent être sollicités. » Je dis, « Ce n'est pas la promesse que j'ai faite à Dieu. » Un homme me dit, « J'y souscrirai. » Je dis, « Ce n'est pas ma promesse à Dieu. » Ainsi, comme je tiendrai ma promesse envers mon prochain, je l'ai fait envers Dieu. Je n'ai pas voulu en parler à ma femme et à mon garçon sur le chemin du retour. Je me suis rendu en Californie et j'ai dû m'arrêter à des réunions d'évangélisation. J'ai dit, « Je rentrerai, je me reposerai quelques jours et je verrai ce que le Seigneur Jésus dit. » Et s'il n'y a rien d'autre, j'irai aider frère Neville dans sa tâche de pasteur au tabernacle. J'ai dit, « Je ferai quelque chose pour prêcher l'Évangile et j'irai travailler comme j'avais l'habitude de le faire. Je patrouillerai sur les lignes de la compagnie des services publics ou quelque chose de ce genre et je prêcherai. Je lui laisserai le dimanche matin ou le dimanche soir et je prendrai l'autre réunion. » Et il aura mercredi, et j'aurai mardi, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, nous irons de l'avant avec les réunions. Et j'ai dit, je me trouverai un emploi, et j'irai travailler. C'est ce que j'ai fait. Je me suis trouvé un travail avec frère Wood, là-bas, qui consistait à déménager des maisons et autres. Ainsi, je me suis trouvé un emploi, et je suis allé travailler. Cela a fait de la peine à ma femme et à Billy. Ils ont dit, Billy a dit, papa, je suis sûr que tu te trompes. J'ai dit, non, j'agis correctement, je tiens ma promesse. Je lui ai dit, « Ma promesse, peu importe ce que c'est, si un homme n'a pas de parole, je ne veux pas, vous ne pouvez pas lui faire confiance, parce qu'il ne vaut rien. Ainsi, il y a une chose qu'une personne doit toujours être, c'est d'être honnête. Dites les choses de telle manière que vous puissiez les répéter 1 million de fois et que ce soit toujours la même chose. Soyez honnête. Peu importe que ce soit mauvais ou que ce soit bon, soyez honnête. Si c'est contre vous, dites-le quand même, ou taisez-vous et ne le dites pas du tout. » Je sens qu'ainsi Dieu bénira un cœur honnête. Et connaissant la position dans laquelle je me trouve pour vaincre la maladie et les autres difficultés des gens, et prier le Seigneur Jésus conformément à sa parole divine et à son appel, je dois être honnête de cœur pour faire cela, parce que le diable sait si vous l'êtes ou non. Il ne prêtera pas attention. Peu importe si vous criez fort ou si vous essayez d'avoir une façade, il ne prêtera pas attention à vous. C'est vrai, mais Dieu, lui, le fera, si vous êtes honnête.
Amen.
Alors, après avoir quitté la Californie, je me suis dit, je leur parlerai lorsque j'arriverai en Arizona. Mais je n'en ai pas eu le courage. Ainsi après, j'ai dit plus loin, au Nouveau-Mexique, et ainsi de suite, si bien que finalement, je leur ai parlé en arrivant ici en Indiana. Mais Dieu en s'est bien compris. Billy ne l'a pas très bien pris. Il a dit, « Papa, je crois que tu fais erreur. » Mais je suis allé à la maison, fatigué, là, indisposé, en larmes. Je suis allé me coucher ce soir-là, et lorsque ma femme se fut endormie, je suis allé dans une autre pièce. Je me suis agenouillé, j'ai dit, « Bien-aimé Seigneur Jésus, je ne sais pas ce que je vais faire. Me voici à nouveau à mon point de départ. Je pense que j'ai échoué. » Environ 2 heures plus tard, il m'est apparu. Et il m'a montré en vision une vue panoramique de gens comme je n'en avais jamais vu. Dans la vision, je parle à ma femme. Maintenant, vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas fanatique. Je ne dis pas ces choses, ce ne sont pas la vérité. C'est vrai.
Amen.
J'ai vu cela. J'ai vu frère Arkenbright qui se tenait là, et je suis allé vers lui, et il a dit, « Frère Billy, nous avons distribué toutes les cartes de prière, et tout est maintenant prêt pour la réunion. Nous avons trouvé le moyen de te faire rentrer et sortir. » Je dis, « Merci, frère Arkenbright. » Je m'avançais afin de voir davantage de frères. Et il y avait un autre frère en train de prêcher. Et je dis, « Qui est-ce ?» Ils dirent, « Ils l'ont mis là-haut. » Je dis, « Qui, il ?» Ils firent alors demi-tour et s'en allèrent. L'homme renvoya l'assistance et les laissa tous partir. Et je dis, « Oh, ils ne devraient pas faire cela, parce qu'il n'y a pas eu d'appel à l'autel. »« Oh, » dirent-ils, un autre individu prit la parole et dit, « Nous avons déjà récolté l'offrande. » Je dis, « Depuis quand, pour Christ, l'offrande est-elle plus importante que les âmes ?» À ce moment-là, l'ange du Seigneur m'emmena et me conduisit auprès d'un cours d'eau, vraiment limpide. C'était une eau du plus beau bleu et de grands poissons nageaient alentour. Elle dit, « Je veux faire de toi un pêcheur. Maintenant, jette ta ligne avec l'appât dans l'eau, puis tire lentement la première fois. Puis la fois suivante, donne juste une petite secousse, pas trop forte, et la fois d'après, mets ton hameçon en place pour la prise. » Et je me mis à jeter ma ligne dans l'eau. Je tirais, et chacun commença à se réjouir en disant, « C'est merveilleux, c'est merveilleux !» Je devins tout excité, et donnai la fois suivante une bonne secousse, et je tirai le poisson et tout le reste hors de l'eau. Il se trouvait que c'était un petit poisson de rien du tout. Il avait juste la dimension de l'appât. Ma ligne était tout emmêlée, et j'étais en train de l'arranger, lorsque l'homme qui parlait derrière moi vint se placer devant moi, vêtu de vêtements palestiniens avec un turban sur la tête. Il avait une robe blanche, et dit, « Frère Branham, c'est fini. » Je dis, « Je sais que je n'ai pas fait juste. J'ai donné une secousse alors que je n'aurais pas dû. » Il dit, « N'emmêle pas ta ligne en ces temps-ci. » Je dis, « Bien, je vais la dérouler aussi droit que possible. Je serai très prudent. » Il dit, « Bon, la première fois que je t'ai parlé, tu as posé les mains aux gens et leur disais ce qui n'allait pas. Au second poule, eh bien, tu connaissais le secret de leur cœur. Et je fis de toi un voyant aux yeux des gens, mais tu essayais toujours de l'expliquer. Tu n'aurais pas dû faire cela. » Il dit, « Tu en as fait une démonstration publique. » Je dis, « Je suis vraiment désolé. » Alors il m'emmena, et je vis une immense tente. Je n'avais jamais vu de tente pareille. Elle était remplie et entourée de gens. Et je sortis vers... C'était comme si je me tenais au-dessus des gens, regardant en bas, où je venais de faire un appel à l'autel. Et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Je regardais et j'entendais un homme se lever dire, « Appelez la ligne de prière !» Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci sur ma gauche, tandis que je regardais vers l'estrade. Et la ligne de prière se forma jusque dans la rue. Je remarquai à ma gauche, ce qui aurait été à ma droite, si j'avais été sur l'estrade, une petite construction en bois. Et je vis cette lumière que l'on a en fauteuil, vous savez, qui est toujours dans les réunions. Je vis donc cette lumière me quitter, aller vers cette petite construction et y entrer. Et une voix me dit, « Je te rencontrerai là-bas dedans. Ce sera le troisième poule. » Je dis, « Pourquoi ?» Il dit, « Eh bien, ce ne sera pas une démonstration publique comme les autres. » Et je revins à moi-même. Maintenant, au début de cette nouvelle année, je suis de retour à mon tabernacle d'où je suis parti. Je suis de retour au commencement d'où je suis parti. Je suis très reconnaissant à Dieu de ces choses. Beaucoup parmi vous savent que juste avant de partir pour l'autre croisade, il y a environ 8 ou 10 ans, je crois que ça fait environ 10 ans, eh bien, il y a 9 ans, il fut dit exactement comment les réunions de l'auditorium, pour vous souvenir, comment ce frère Lawton vivrait exactement 3 ans, puis qu'il serait repris, que frère Ward construirait un tabernacle ici dans cette direction, et tout exactement. Vous le savez, vous qui êtes là depuis longtemps. Cela est arrivé exactement de cette manière, et ce sera pareil pour ceci, car c'est ainsi parle le Seigneur. Et vous saurez, je crois qu'à partir de maintenant, les plus grandes réunions que j'ai jamais tenues pour le Seigneur Jésus vont avoir lieu. Ainsi vous savez, je suis très heureux ce matin de me présenter devant vous, et la première fois que le message a été donné, c'est ici, à travers ce microphone, aux gens du tabernacle. Et maintenant, il sera dans le journal religieux comme Voice of Healing, Herald of His Coming, etc. dans quelques jours. Il est déjà tapé et prêt à partir. Priez pour moi, et un jour glorieux, lorsque tout sera terminé, nous nous retrouverons autour de son trône, et quel moment nous passerons alors.
Amen.
Souvenez-vous, il n'y a pas que moi dans les services au dehors. Je n'ai qu'un si petit rôle, mais c'est aussi vous, ici à l'arrière, vous voyez? Et je crois que ce vieux petit tabernacle va s'étendre et que ce que le Seigneur va faire sera merveilleux.
Amen.
Que le Seigneur soit béni. Maintenant tout droit la parole, mais avant, adressons quelques mots de reconnaissance au Seigneur Jésus. Père Céleste, nous te sommes si reconnaissants aujourd'hui de ce que tu es ici en cet âge moderne. À l'âge des automobiles, des avions, des jets, des fusées et de tous les produits de la science. Téléphone, télévision, armes modernes atomiques, etc. Tu es toujours le Dieu suprême, tout-puissant, omnipotent, omniscient, qui créa les cieux et la terre et modela le ciel. Oh Dieu, nous ne pouvons l'expliquer. Nous ne pouvons l'expliquer. Nous ne pouvons pas non plus expliquer pourquoi le ciel n'a pas de fin. Comment le monde peut faire sa révolution. Et cela si parfaitement que 20 ans à l'avance, on peut dire quand l'éclipse de soleil aura lieu. Parce que ton mécanisme fonctionne parfaitement. Nous ne pouvons pas produire de machines d'une telle précision. Mais ô grand Jéhovah, toi qui maintiens cette terre dans l'espace parfaitement, nous t'aimons et toutes tes actions sont justes et parfaites.
Amen.
Nous nous soumettons à toi ce matin au commencement de cette nouvelle année et te demandons de nous remplir tous du Saint-Esprit, Seigneur, et attire-nous plus près de toi. Entoure-nous et garde-nous dans tes bras éternels, Seigneur, car les temps sont agités et sombres. Mais l'étoile du matin montre le chemin. Nous suivrons, Seigneur. J'irai où il me conduit.
Amen.
Pour certains, ce peut être à travers les eaux, pour certains à travers l'inondation, pour d'autres à travers de grandes épreuves, mais pour tous à travers le sang.
Amen.
Oh, conduis-nous par ta main éternelle, jusqu'à ce que la victoire soit finalement remportée et que Jésus revienne sur la terre. Ce sera alors la fin du péché, de la maladie et du chagrin, et nous vivrons ce glorieux millénium avec toi. Nous attendons ce grand jour avec impatience. Viens aujourd'hui oindre ta parole, Seigneur Jésus. Pénètre en elle, circoncis les lèvres qui parlent et les cœurs qui entendent. Puisse la semence tomber dans le cœur, le Saint-Esprit la sèmera, et puisse-elle produire au centuple. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous aide, alors que nous passons à l'enseignement de la parole. J'essaierai, si jamais j'y arrive, de ne pas vous garder ici trop longtemps pour la leçon d'école du dimanche, parce que nous avons un service de guérison pour prier pour les malades immédiatement après celui-ci. Comme notre Seigneur Jésus a été bon pour nous. Je parlais justement avec frère Neuville. J'ai oublié, je crois que frère Cox était avec nous lorsqu'une fois nous sommes allés prier pour une petite maman ici à Charleston qui était mourante sur son lit, sans plus d'espoir, étant consumée par le cancer. Et Dieu, merveilleusement et miraculeusement, guérit cette petite femme.
Amen.
Son frère est pasteur, le petit Junior Cash, et aujourd'hui il est en train de prêcher l'évangile et de prier aussi pour les malades. Il vient d'y avoir un grand réveil à Henryville, et frère Neuville me disait justement comme le petit frère Junior progressait. Je suis si content de cela. Vous voyez, jetez votre pain sur la face des eaux, car un jour il reviendra vers vous.
Amen.
Semez la bonne semence, vous moissonnerez la bonne récolte. Si vous semez la mauvaise semence, vous moissonnerez de mauvaises choses. Vous ne pouvez aller à l'est et à l'ouest en même temps. Vous allez soit d'un côté, soit de l'autre. Ou bien avec tout ce que vous avez ce matin, vous êtes tourné vers Dieu et vous regardez à lui, ou bien vous êtes tourné de l'autre côté. Vous voyez, vous croyez parfois que vous avancez correctement, alors que vous avancez mal. Mais vous ne pouvez aller à droite et à gauche en même temps. Si vous vous dirigez à gauche, vous irez à gauche et vous sortirez à gauche. Si vous vous dirigez à droite, vous sortirez à droite. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller à droite. Il peut sembler que vous avancez mal, mais vous avancez correctement. Suivez la boussole. La boussole, c'est le Saint-Esprit. Le pôle magnétique au nord maintient la boussole exactement en direction du nord. N'est-il pas merveilleux que l'électronique de l'air... Il y a quelques années, j'étais près du pôle nord, et là, on voit ces aurores boréales embraser le ciel, et la nuit noire est illuminée par des lueurs jaunes et vertes, si bien c'est aussi clair que dans cette salle. Et j'ai pensé que bien plus au sud, en Amérique centrale, n'importe où, cette boussole se tournera directement vers ce pôle magnétique. Elle vous conduira vers le nord chaque fois. Et comme c'est glorieux que nous ayons un système magnétique dans la gloire.
Amen.
Et chaque homme qui a reçu une boussole pour le conduire à travers cette vie, elle le dirigera vers Jésus-Christ.
Amen.
Avec autant de certitude que nous sommes assis dans l'église aujourd'hui. Maintenant, dans ta merveilleuse parole, le chapitre 19... Non, pardon. C'est le chapitre 10 des Hébreux et le verset 19. Je désire que vous écoutiez bien pendant que nous lisons. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, comme c'est merveilleux, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Amen.
Que le Seigneur Jésus accorde ceci en réponse à la parole.
Amen.
Aimez-vous la parole?
Amen.
La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu.
Amen.
Maintenant, juste durant la prédication, peut-être pendant les 30 ou 40 minutes qui vont suivre, pénétrons directement dans la parole. Bon, notre foi ne peut pas reposer sur rien. Un chrétien doit avoir un lieu de repos solide pour sa foi. Vous savez cela. Et le seul endroit où un chrétien, un véritable chrétien, né de nouveau, puisse faire reposer sa foi, c'est sur la parole immuable de Dieu. Elle n'est pas construite sur les sables mouvants de la théologie et des doctrines humaines ou sur l'affiliation à une quelconque église, mais un vrai croyant, sa foi est ancrée solidement alors qu'il s'approche de la parole de Dieu.
Amen.
J'ai raconté quelque part, peut-être ici, qu'un de ces derniers soirs, j'avais tellement envie de prêcher que j'avais prêché à ma femme au lit, jusqu'à minuit, lui disant simplement combien Jésus était glorieux.
Amen.
Un texte était venu dans mon cœur. Il me brûlait tellement que je ne pouvais pas me reposer ainsi. Et je dis, « Chérie, je désire te prêcher un petit moment. » Elle se redressa et me fit la grâce d'écouter. Je dis, « La foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. » C'est juste. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à un autre. Un chrétien ne se tracasse pas, ne se met pas en colère et ne s'inquiète pas. Un chrétien se repose.
Amen.
Tout est terminé. Pour le croyant, tout est terminé au calvaire. C'est vrai. Oh, la maladie, les déceptions peuvent venir, mais le chrétien est au repos.
Amen.
Sachons aussi que Dieu peut garder ce qu'il a accompli.
Amen.
Et que peu importe ce que c'est ou comment c'est, ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famine, ni quoi que ce soit, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ.
Amen.
Nous sommes au repos. Le vieux bateau peut tanguer comme il veut. L'ancre tient bon. Une fois, je passais près d'un port et je vis, nous étions en avion, nous volions bas, et il y avait là un grand et vieux bateau. Les voiles avaient été baissées, vous savez. Et oh, quelle tempête sur la mer! Oh là là, il était ballotté. Et je vis que ce vieux bateau se balançait d'avant en arrière, tandis que des vagues pénétraient et que d'autres passaient en dessous. Je dis, je me demande pourquoi. Et quelqu'un dit, il a une ancre flottante. C'est pourquoi le bateau ne peut pas sombrer. Il peut traverser les vagues, mais il ne peut pas sombrer, parce qu'il est ancré.
Amen.
Je dis, oh, Dieu soit loué. Nous avons une ancre.
Amen.
Certaines vagues, nous pourrons passer par-dessus et d'autres, nous pourrons passer par-dessous. Mais sans nous inquiéter pour savoir si l'ancre tient, ce n'est pas le bateau qui fait tenir, c'est l'ancre qui fait tenir.
Amen.
Ce n'est pas ce que je suis, ce que je serai ou ce que j'étais, c'est ce qu'il est maintenant.
Amen.
Et ce qu'il a fait pour moi et pour vous. Ce n'est pas ce que je peux faire, c'est ce qu'il a fait.
Amen.
Ma foi n'est pas ancrée dans ce que seront les réunions à venir. Ma foi ne repose pas sur une compétence quelconque que j'aurai, ou sur l'Église dont je devrais faire partie, ou sur les gens avec lesquels je devrais m'associer. Ma foi est ancrée et repose entièrement sur l'œuvre achevée et déjà reçue du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Dieu l'a justifié en le ressuscitant des morts. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu l'a ressuscité des morts pour notre justification.
Amen.
Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit, « Vivant, il m'aima, en mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés très loin, en ressuscitant, il justifia librement pour toujours, un jour il va venir, ô jour glorieux. » Sur les mers démontées, le chrétien se repose avec cette espérance. Certes, les tempêtes se lèvent, toutes sortes de difficultés, mais nous sommes ancrés. C'est tout, il ne sombrera jamais, il ne peut pas sombrer. Maintenant, au cours de ma vie, j'ai remarqué beaucoup de chrétiens qui avaient des hauts et des bas. Je me suis étonné de cela. Et au lieu de prêcher un texte comme celui-ci dans les autres églises où je vais, J'ai pensé qu'il valait mieux l'apporter à mes fidèles ici au tabernacle, avec comme sujet « Pourquoi les gens sont-ils tellement ballottés ?» On trouve de ces gens qui semblent très religieux, qui paraissent avoir un désir si profond et qui journellement recherchent Dieu, mais n'arrivent jamais à une solution par laquelle ils pourraient être établis ou ancrés en Christ. Et ceci, je l'ai appris par expérience, c'est la catégorie des intellectuels. Maintenant, puisque nous parlons de cela, il y a deux types de christianisme. Cela semble étrange, mais je ne devrais pas dire deux types, je dirais deux phases différentes. Ce serait un mot meilleur, non pas deux types, mais deux phases. Le même christianisme, mais avec deux phases à celui-ci. Et l'une d'elles, c'est une conception intellectuelle ou cérébrale de ce que Dieu a dit dans sa parole et de Jésus-Christ, au moyen de la connaissance. Et l'autre est une expérience vécue que Dieu a donnée à l'homme dans son cœur. L'intellectuel a faim. Il se régale de Dieu, mais son régal ne dure pas. L'autre semble avoir tout le temps la victoire. Rien ne les dérange. Ils sont aussi solides et ancrés qu'ils peuvent l'être. Les épreuves, les tempêtes ne les dérangent pas du tout. Mais il semble qu'il y ait chez eux quelque chose qui fait que les gens qui sont chrétiens et essayent de vivre pour Dieu admirent ce type de chrétien. Et je me suis souvent demandé, Seigneur, qu'ont ces gens que les autres désirent si ardemment, sans pourtant sembler pouvoir l'obtenir? Je sais que c'est la grande question que nous, qui avons servi Christ, nous nous posons tous dans notre cœur. Et je n'ai encore jamais vu personne venir une fois à lui sans qu'il, pour qui la vie ne paraissait plus jamais juste s'il leur arrivait plus tard de quitter Christ. J'ai discuté hier avec un petit homme de couleur qui me parlait d'un pasteur qui avait rétrogradé, déchiré les textes de ses prédications, les avait jetés à la poubelle en disant « J'en ai fini avec ça ». Le dimanche suivant, il prit une caisse de bière, s'assit et l'a bu. Environ deux semaines plus tard, il était sur son lit de mort. Si j'avais le temps, j'expliquerais cela en montrant la manière dont cela opère dans la Bible, mais ce serait en dehors du texte. C'est un autre sujet, comment Satan est entré, a pris la personne, et comment Dieu a dû emmener son enfant à la maison. C'est tout ce qui pouvait arriver. Mais maintenant, nous pouvons voir cette fin qu'ont les gens, et pourtant incapables de l'atteindre. Un grand nombre de nos enseignants et de nos écoles ont ajouté beaucoup de théologie à cela, en disant aux gens, « Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas crié, parce que vous n'avez pas parlé en langue, ou parce que vous n'aviez pas ce genre de don. » Or, je n'ai rien à dire contre de telles choses. Mais tout compte fait, vous remarquez que ces gens, lorsqu'effectivement ils crient, parlent en langue ou expriment une autre émotion, ne semblent cependant pas être la personne qu'ils devraient être. Nous savons que c'est vrai. Et je me suis souvent demandé moi-même ce qu'on pouvait faire pour une personne avec cet état d'esprit. Alors, bien que cela soit si simple dans la parole de Dieu, nous essayons de l'expliquer. Et pour en arriver là, après avoir vu la partie intellectuelle de l'esprit et l'âme qui est dans le cœur, or, vous avez en fait deux facultés mentales différentes. L'une d'elles est dans votre tête, par votre cerveau, et l'autre, qu'on appelle l'âme, dans votre cœur. Votre esprit et votre âme. Maintenant, ils sont fréquemment en désaccord. Lorsque la tête semble dire quelque chose, l'âme se demande si c'est juste. Mais quand cela vient de l'âme, la tête semble faire un pas en arrière. Certaines choses vous sont arrivées qui, vous le saviez, allaient se produire, mais vous ne pouviez pas expliquer pourquoi. Il n'y avait pas de raison, et vous ne pouviez pas l'expliquer, mais pourtant vous l'acceptiez, et cela arrivait de cette manière. C'est lorsque quelque chose arrive ici en bas. Au cours des grandes campagnes, j'ai remarqué beaucoup de gens qui venaient vers moi et disaient « Oh, j'ai toute la foi, frère Branham !» Intellectuellement, ils ont raison, ici. Mais elle n'est pas là, dans leur cœur. Si c'était le cas, ils ne seraient pas sur l'estrade pour que l'on prie pour eux, afin d'aider leur foi. Maintenant, nous allons devoir revenir en arrière et prendre un type pour vous exposer cette image ce matin, comme à des enfants. Et je désire que vous fassiez bien attention. Je crois en l'utilisation des types, spécialement pour les gens. C'est plus facile pour eux de comprendre lorsqu'on illustre. C'est bon d'enseigner les enfants, et nous sommes tous des enfants. Nous sommes juste des adolescents en Dieu. Qui oserait dire ici, je suis un adulte qui a grandi en Dieu? Nous n'en sommes pas, nous ne sommes que de petits bébés en Dieu. C'est vrai. Maintenant, nous allons essayer d'amener ceci à un point où nous pourrons voir exactement ce que Dieu fait. Ainsi, revenons en arrière à l'Ancien Testament, afin de voir cela. Et nous prendrons comme exemple les enfants d'Israël. Après qu'ils eurent traversé la mer Rouge, et comme ils se dirigèrent vers la terre promise, Dieu, par sa grâce souveraine, fit pleuvoir chaque nuit de la manne du ciel. Et les gens allaient et mangeaient, prenaient cette manne, en faisaient du pain, des biscuits, autre chose, et mangeaient ce pain, ce qui les soutenait physiquement pendant le voyage. Et nous voyons à plusieurs reprises que s'ils laissaient la manne par terre juste un petit peu trop longtemps, elle fondait, disparaissait, comme la gelée blanche sur le sol, elle ne restait pas. Or, nous voyons que la même chose se produit dans le christianisme. Beaucoup de gens, avant 9 heures, ont faim. Vous avez beaucoup de, que dirais-je, d'étoiles dans le camp. Beaucoup de gens vont à la réunion, se réjouissent, crient et louent le Seigneur pendant que l'Esprit de Dieu descend. Toute condamnation a quitté leur cœur. Et dès que... un jour ou deux après le réveil, ils se retrouvent à nouveau dans leur vieille routine. Ils mangeaient pourtant la manne. Beaucoup de gens viennent à Christ. Or, il n'a jamais été possible, dans le monde pentecôtiste, de faire voir cette vérité fondamentale aux pentecôtistes. C'est tellement difficile, parce que chaque église a sa doctrine, et qu'ils entendent leur pasteur à longueur de journée. Quand l'évangéliste dit quelque chose, ils disent « Oh, je l'ai, quelle différence cela fait-il » Mais ils manquent de recevoir cette vérité. Maintenant, je l'ai souvent dit et je fais encore, je crois cette grande foi ou vérité fondamentale que Jésus-Christ a exprimée par « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ». Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, celui qui écoute ma parole. Oh, j'aimerais pouvoir faire pénétrer cela dans chaque cœur. Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. C'est sa parole. Qu'avez-vous à faire? Croire! Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend de la parole. Croire, appliquer et se reposer. Vous voyez? La parole dit ainsi, écoutez-la! Votre cœur dit ainsi, croyez-le, et de tout votre être, et tout votre être se repose là-dessus. C'est achevé. La foi vient de ce qu'on entend. Jésus a prononcé la parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, qui n'a pas de fin ou qui existe toujours. N'est-ce pas merveilleux? La vie éternelle, elle ne périra jamais. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il est passé de la séparation à la présence éternelle.
Amen.
Amen. Déjà, lorsque vous étiez un étranger, loin de Dieu, vous avez cessé d'être un étranger. Maintenant, vous êtes un enfant. De la mort à la vie.
Amen.
Des ténèbres au jour. du mortel à l'immortel, Alléluia. De la corruption à l'incorruption,
Alléluia.
De la lassitude à la joie, de la mort à la vie,
Amen.
Et vous vous reposez entièrement,
Amen.
Sur le « ainsi dit le Seigneur », pas sur des sentiments, des émotions cérébrales, de la théorie, sur quelque chose d'inconnu que quelqu'un vous a dit et qui n'a pas de fondement, sur quelqu'un qui dit « eh bien, venez vous joindre à notre Église et ce sera fini ». Mais c'est sur la parole de Dieu que l'âme humaine se repose fermement.
Amen.
Dieu l'a dit. Cela règle la chose,
Amen.
La rend réelle. Maintenant, passons rapidement au second stade. Qu'est-ce qui fait sortir ces gens sur le terrain, leur fait manger la manne, et qu'ensuite, avant la tombée de la nuit, beaucoup parmi eux ont faim? Les gens vont aux réunions, il y a beaucoup de gens qui vont, enclenchent leur radio, écoutent un bon sermon et se réjouissent. Beaucoup parmi eux vont à l'église, entendent un bon sermon et rentrent à la maison réjouis. Mais quelle est cette chose qui vient et vous enlève tout dès que la première petite difficulté surgit? Certainement que si vous écoutez la parole, et que votre âme se réjouit dans la parole, c'est le Saint-Esprit que vous mangez.
Amen.
Je crois que vous croyez en la guérison, en la vie éternelle. Je crois que votre acceptation du Seigneur Jésus vous donne la vie éternelle, lorsque vous y croyez. Je crois aussi que par un seul esprit, vous êtes ensuite baptisé dans le corps des croyants. Nous allons y venir dans quelques minutes, du voulant. Vous croyez en la vie. Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, va à Éphèse. Ayant trouvé certains disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Vous voyez, votre foi vous ancre en Christ. C'est intellectuel. Vous y croyez, vous l'acceptez, vous dites que c'est juste. Vous reconnaissez que c'est la vérité et vous êtes chrétien. Alors vous avez la vie éternelle en y croyant. Vous êtes entré auprès de Dieu. Vous êtes dans le camp. La manne tombe et vous en mangez. Et avez-vous remarqué cette chose étrange? Il y avait une multitude de gens de toute espèce qui mangeaient la même manne. Des gens qui sont pécheurs, qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus, peuvent pourtant se réjouir en voyant se manifester le miracle de Dieu, la guérison des malades. Ils peuvent éprouver de la joie en voyant des gens agir droitement. Ils peuvent ouvrir leur cœur et éprouver de la joie à entendre un sermon qui est prêché sous l'onction.
Amen.
Et c'est le même type de manne que le chrétien mange. Voyez-vous cela?
Amen.
Maintenant, souvenez-vous toujours de ma doctrine ici, au tabernacle. Vous devez suivre Dieu en trois, parce qu'il est rendu parfait en cela. Maintenant, nous nous demandons pourquoi. Nous trouvons alors que cette manne fondait. Elle venait sur le sol, puis fondait. Puis elle revenait et fondait à nouveau. Chaque jour, à 9 heures, une partie n'était déjà plus là. J'ai rencontré des gens qui se tenaient debout dans l'église et se réjouissaient. Et je l'ai vu sortir de l'église. Et peut-être que lundi ou mardi, l'un d'eux vivait en se comportant mal, de manière inconvenante pour un chrétien. Et l'homme ou la femme, peu importe, se retournait, vous serrait la main et disait, « Je ne veux pas faire ces choses. » Ils vous font pitié. On a vu des gens accepter la guérison divine et dire, « Oh oui, je vois, c'est la parole. Oh, merci Seigneur, je le crois. » Et ils allaient bien pendant quelques jours, et lorsque le premier petit orage frappait, les voilà qui retombaient. Vous l'avez remarqué, et c'est vrai, et les gens n'y peuvent rien. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui provoque ces choses? Maintenant, remarquons. Nous voyons que cette manne, lorsqu'elle tombait, Dieu la faisait tomber pour donner la vie aux enfants d'Israël pendant le voyage. Puis Dieu dit à Moïse et à Aaron de fabriquer un grand vase en or, de le remplir de manne et de le mettre dans le lieu saint, ou le lieu très saint, près de l'arche. Cette manne devait être mise près de l'arche, et là, elle ne manqua jamais. Elle ne vieillit jamais, elle ne perdit jamais sa douceur. Là, elle resta toujours bonne. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a été là, à l'intérieur, qui a goûté et qui vit de cette manne? Vous pouvez le rencontrer le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, par un jour nuageux, un jour ensoleillé, un jour brumeux, que les choses aillent bien ou mal, il est toujours doux, toujours plein d'amour. Ne parle ni n'agit jamais mal, il vit sous la gloire de Dieu. Il n'a jamais faim, il n'a jamais besoin d'aller à l'église pour être remonté. Il est simplement toujours plein de Dieu.
Amen.
Les gens vont à l'église, vous serrent la main dans l'église, rient et vous appellent frère. Hors de l'église, ils vont manigancer une affaire qui n'est pas des plus correctes pour retirer un profit personnel. Je ne veux pas dire qu'il y ait des gens pareils ici au tabernacle, mais simplement que cela existe. Il y a des choses que les gens font et elles deviennent remplies d'amertume. La moindre petite chose ramènera ce vieux tempérament, cet égoïsme. Elles vont ouvrir une oreille pour entendre des cancans, ou faire quelque chose de ce genre. Ces personnes ne sont jamais entrées ici dans ce lieu. Ils sont dehors, ils mangent vraiment la même manne. Ils ont été amenés dans le camp. Et c'est là que, dans le camp, sur le terrain, c'est là que les gens ont reçu la manne. Ils sont là-dedans, et la manne qu'ils mangent est la même manne que cet homme mange ici. Ils ont tous deux le même pasteur, tous deux lisent la même Bible, mais l'un reste constamment fidèle et humble, et l'autre a ses hauts et ses bas. Il va comme ceci, il est dedans puis dehors. Tous deux mangent la même manne, mais l'un est entré et l'autre est encore dehors. Tous deux croient en la vie éternelle. Mais l'un est baptisé du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu, et l'autre est dehors en train de manger la même manne. Et les gens nous ont dit, il faut crier pour entrer ici, il faut parler en langue pour entrer ici, il faut faire toutes ces choses. Mais nous voyons que ces choses ne jouent pas. J'ai vu des gens crier qui n'étaient pas. J'ai de la peine à penser, je n'ai aucun moyen de juger, et je ne devrais pas le faire. J'ai vu des gens qui criaient et vivaient n'importe comment. J'ai vu des gens danser dans l'esprit à travers les salles, puis sortir et mener une vie épouvantable. J'ai vu aussi bien des hommes que des femmes faire ça. J'ai vu des hommes et des femmes qui avaient un caractère comme je ne sais pas quoi, danser dans l'esprit, parler en langue et crier. Il y a quelque chose de faux. Et pourtant, ils jouissent des bénédictions de Dieu. Ils y croient. Ils ont foi en cela. Mais c'est seulement dans ce parvis extérieur. Ce n'est jamais entré dans le parvis intérieur. Ils n'ont jamais passé d'ici à ici en bas. C'est ce qui se passe avec les églises aujourd'hui. C'est ce que vous voyez. Oh là là, ça me réjouit. Lorsque je peux voir cela en vision et voir que notre encre tient derrière le voile. La Bible a dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc et un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Peu importe ce que les gens disent, vous savez vous-même, lorsque vous avez été amené derrière le voile intérieur. Personne ne pourrait vous en dissuader. Ce n'est pas parce que vous vous êtes joint à l'Église, ou parce que vous avez fait ceci ou cela, mais quelque chose vous le dit. Vous avez un caillou dans le cœur. Pas un caillou dur, un caillou tendre. Ce caillot rend votre cœur tendre au lieu de dur.
Amen.
Dans Ézéchiel, dans les temps anciens, lorsque les lois furent mises dans le tabernacle, dans l'arche, les lois de Dieu, Ézéchiel parla d'une autre époque. Maintenant, les gens, il y a deux classes de gens aujourd'hui, les mêmes classes, qui essayent de faire quelque chose pour se sauver eux-mêmes. Chacun dit, j'irai à l'église tous les dimanches, c'est très bien. Je veux être très religieux, c'est très bien. C'est toujours sous la loi. Mais l'autre, en allant à l'église et en étant bon, ce n'est pas quelque chose que vous faites par vous-même, c'est quelque chose en vous qui le fait pour vous.
Amen.
Le Saint-Esprit dans votre cœur. Maintenant, remarquez dans ce parvis intérieur. Les gens qui vivent ici, à l'intérieur, semblent être toujours rassasiés et en bonne forme. Ézéchiel a dit, « J'écrirai à nouveau mes lois et je les mettrai dans leur cœur. » Or, dans l'arche, la loi était écrite sur de la pierre, et l'arche représente le cœur. Ainsi, je mettrai ma nouvelle loi dans leur cœur, dans l'arche. Le cœur est la demeure de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans sa gloire au-dessus de l'arche. Et le cœur est l'arche. Dieu n'habite pas dans la tête, mais dans le cœur. Dieu n'est pas connu par la théologie. Dieu n'est pas connu par une conception intellectuelle. Dieu est connu par l'expérience démodée de la sanctification et de la nouvelle naissance qui se produit dans le cœur humain.
Amen, amen.
Pourtant, hommes et femmes vivent correctement et aiment Dieu selon un concept intellectuel. Mais le véritable abri est dans le cœur, caché avec Christ.
Amen.
Et lorsque Christ, le Saint-Esprit, vient dans votre cœur, il est en vous avec votre tempérament. Elle vit sa propre vie, selon sa propre volonté, à travers vous.
Amen.
Alléluia.
Amen. Amen.
Je sais que ça paraît énorme, mais c'est vrai.
Amen.
Christ, vous êtes si soumis que Christ exprime le genre de mort qu'il prononcerait. Il pense à travers vous le genre de pensée qu'il aurait. Il fait à travers vous les mêmes œuvres qu'il ferait.
Amen.
Vous êtes soumis et au repos. Quelle image magnifique d'un chrétien consacré, soumis, Christ agissant à travers lui. Paul a dit, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.
Amen.
Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Christ vivant dans l'âme de la personne qui s'est abandonnée. Christ parle à travers les lèvres, pense à travers l'esprit, voit à travers l'œil, agit à travers le tempérament. Alléluia.
Amen.
Alors les choses du monde sont passées. Comment cela peut-il être autre chose que doux et plaisant tout le temps? Christ a pris le contrôle.
Amen.
Amen. Le voyez-vous? C'est ça, c'est Christ en vous.
Amen.
Christ en vous. Vous dites, oh voyez-vous, je crois que c'est la vérité, frère Branham. C'est juste, c'est ici, mais ça doit venir là. Si c'est le cas, alors toute votre personne est Christ. Votre attitude, vos désirs, votre appétit, tout votre être est Christ. Soumis au repos, toute chose parfaite.
Amen.
Peu importe que ça paraisse morne ou noir, ça reste pareil.
Amen.
Christ est en vous. Il parle au pécheur avec la voix avec laquelle il lui parlerait. Il parle à la prostituée avec la voix avec laquelle il lui parlerait. Il pense à travers votre esprit les pensées. Elle parle à votre cœur de la même manière que s'il était ici sur la terre. Et vous n'êtes plus vous-même, vous vous êtes abandonné.
Amen.
Aaron allait une fois par année dans ce lieu saint. L'assemblée le regardait. Il était habillé de la façon correcte. Il devait être loin de la façon correcte. Il devait marcher de la façon correcte. Que le Seigneur soit béni. Habillé de la façon correcte, marchant de la façon correcte, loin de la façon correcte.
Amen.
Il avait une clochette et une grenade sur sa robe. Et lorsqu'il avançait, celle-ci faisait entendre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Il tenait devant lui un grand récipient contenant du sang, le sang de l'agneau, le sang de l'expiation. Elle était loin avec la rose de Saron, et l'onction coulait de sa barbe jusqu'au bord de son vêtement. Il entrait dans le paradis intérieur, dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il était là, le voile retombait derrière lui. Il était enfermé. Il était caché du monde extérieur. Dieu soit loué. Il y a un lieu caché. Une demeure. Nous pouvons marcher dans la présence de Dieu, être cachés des choses de ce monde. Nous ne les entendons plus. C'est insonorisé. Alléluia. Insonorisé. Le monde est à l'extérieur, haletant et aux aguets, mais vous êtes à l'intérieur, dans la présence du Dieu éternel. Mangeons de cette manne qui durera des années, des centaines d'années. Elle n'est jamais contaminée, elle ne diminue pas non plus. Et lorsqu'un homme pénètre une fois auprès de Dieu, le voile tombe derrière lui, ferme le passage aux choses du monde. Il est dans la présence de Dieu, en train de manger la manne. Ce n'est pas étonnant, à midi, à 9h ou à n'importe quel moment, il vit dans la présence du roi.
Amen.
Ce n'est pas étonnant que chaque jour soit beau pour lui. Il sait où il se trouve. Il a trouvé le lieu secret. Il est allé derrière le voile. Les portes sont fermées derrière lui. Il ne voit rien du monde. Ses portes sont insonorisées par des peaux de moutons et de chèvres. Et c'est insonorisé par le baptême du Saint-Esprit.
Amen.
Qui cache l'homme en Christ.
Alléluia.
Et là, il devient une nouvelle créature. Il marche ainsi devant lui, jour après jour. Quelle magnifique image du croyant qui se trouve dans la présence de Dieu. Toutes choses sont alors siennes. Toutes choses ont été données à Christ. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église.
Amen.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et moi en vous.
Amen.
Oh, le privilège qu'a le croyant si seulement pouvait accepter cela. Vous dites, frère Branham, vous nous avez présenté une image, mais comment y parvenez-vous? C'est la chose suivante. Comment serons-nous là, frère Branham? Voilà comment ils viennent, en suivant le modèle. Oh, je suis chrétien, frère Branham, j'ai été sauvé, j'ai été baptisé, je prends plaisir aux bénédictions de Dieu. Vous êtes dans le parvis extérieur. Vous dites, certains jours, j'ai mes hauts et mes bas, mes fardeaux, mon agitation, mes soucis. J'aimerais pouvoir vivre une vie victorieuse.
Amen.
Eh bien, il vous faut sortir du parvis et entrer. Maintenant, quelle était la première chose? Le parvis représentait la justification. En dehors, c'était où le peuple entrait, tous ceux d'Israël. Personne d'autre qu'un Israélite circoncis ne pouvait entrer dans ces parvis. Il souillerait. Vous souvenez-vous lorsque Paul amena Timothée au temple et que les gens dirent, ils ont souillé ce lieu saint en y amenant un gentil? Dans les parvis, ce doit être absolument des gens justifiés, des hommes et des femmes régénérés qui ont accepté Dieu et ont qui habitent la vie éternelle. Il doit être cela pour être dans le parvis. Ensuite, ils viennent vers le premier autel. Et c'était cet autel qu'on brûlait le sacrifice et que le Seigneur les rencontrait en leur accordant le pardon des péchés et la purification de toute leur iniquité. L'autel des reins sur lequel on brûlait l'animal et son sang, c'était le second parvis. Maintenant, après avoir quitté ce second parvis, la sanctification, ils entraient dans cette vie consacrée.
Amen.
Ils entraient dans la présence de Dieu.
Alléluia.
Et c'est pendant qu'ils étaient là, qu'ils avaient toutes ces choses glorieuses. Et nous avons ici un type magnifique montrant que si quelque chose de mort entrait, ils vivaient à nouveau.
Amen.
Avez-vous déjà pensé à cela? Ils prirent la verge d'Aaron et la déposèrent près de ce lieu de saint. Et en une nuit, elle bourgeonna,
Amen.
Produit des fleurs et mûrit des amandes.
Amen.
Ceci en l'espace d'une nuit. Pensez donc dans la présence de Dieu, cette vieille verge morte qui reposait là, dans la présence de Dieu. Bourgeonna, produit des fleurs et mûrit des amandes en une nuit. Qu'était-ce donc? Quel genre de verge était-ce? C'était une verge d'amandier. C'est de là qu'il l'avait prise. Le bâton venait d'un amandier. Et à un moment donné, vous êtes semblable à un bâton. Vous êtes un humain pris à la branche de l'humanité. Un fils que Dieu a créé au commencement. Vous pouvez être tombé, être mort, vous être détaché de Dieu. Mais vous avez été créé pour être un fils de Dieu.
Amen.
Vous pouvez faire de l'épate, être respecté, honoré ici dans les parvis, mais si jamais vous pénétrez dans cet endroit glorieux et que vous vous tenez caché avec Dieu, vous produirez ce que vous êtes censé faire.
Amen.
Prenez un pécheur mort, étranger à Dieu, sans espérance, sans Christ, et mettez-le dans la présence de Dieu, là dans ce grand tabernacle glorieux. Il produira le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. La verge morte bourgeonna. Lorsqu'elle bourgeonna, elle dut recevoir de la fraîcheur. Elle dut être rafraîchie. Après avoir été rafraîchie, elle dégagea une odeur, un parfum provenant de la fleur. Et la chose suivante qu'elle produisit fut un fruit. Et chaque chrétien vient de la même manière lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. D'abord, il doit être rafraîchi. Le Saint-Esprit doit s'emparer d'un homme, le renouveler et faire de lui une autre personne.
Amen.
Le Saint-Esprit pénètre juste comme un rafraîchissement. Le Saint-Esprit vient dans la quiétude de l'heure. Vous savez, vous sortez un matin vraiment tôt lorsque la rosée est sur le sol. La rosée tombe juste avant l'aurore d'habitude, parfois pendant la nuit. Après que l'agitation et le remue-ménage du monde sont allés se coucher, après que tout s'est endormi, êtes-vous déjà sorti tôt le matin? Sortez tôt et voyez combien tout est frais, vraiment frais tôt le matin. Pourquoi? La vieille terre a été cachée pour un moment et rafraîchie. Et vous êtes-vous déjà trouvé en présence d'un homme ou d'une femme qui s'est cachée loin du monde? C'est rafraîchissant de leur parler. Ils sont rafraîchis. Il commence à venir à la vie. Êtes-vous jamais entré dans la roseraie tôt un matin ou le long des routes, ici vraiment tôt, lorsque la rosée est sur le sol et senti l'odeur du chèvrefeuille, etc., les fleurs du faux acacia? C'est exactement comme un chrétien qui s'est caché avec Dieu dans la tranquillité de la nuit ou ailleurs. Il apparaîtra le jour suivant rempli de fraîcheur, une vie parfumée, un lieu agréable où se tenir. Quelqu'un à qui vous aimez parler, quelqu'un qui peut vous encourager, quelqu'un en qui vous avez confiance. Votre voisine là-bas, combien vous aimez parler avec elle? Voyez, c'est la fraîcheur, le parfum, et la chose que cela produit ensuite, c'est du fruit. Et où que le Saint-Esprit aille, il plante toujours la semence de Dieu et produit du fruit. Ce qu'il y a encore de glorieux avec cet endroit, lorsque vous y entrez, c'est que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez croire. Voici une femme ce matin, étendue sur une civière, dans un état grave. Eh bien, si Dieu ne la touche pas, elle mourra. Elle est âgée, c'est une vieille maman, aux cheveux blancs, portant des lunettes. Elle a l'air très pieuse. Je lui ai dit quelques mots en entrant, il y a quelques minutes. Maintenant, elle est étendue ici. Ses médecins ont peut-être fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ne peuvent rien faire de plus. En tombant, elle s'est abîmée une cheville, et également des côtes. Elle m'a parlé d'une complication, de ce qui n'allait pas avec elle. Et je lui ai dit des choses qu'elle ne savait pas elle-même. Mais étendue là, dans cet état, alors qu'elle est ainsi estropiée, que pouvons-nous faire pour elle? Eh bien, l'amener dans la présence bénie du Saint-Esprit, rafraîchissant et suffisant pour tous, qui peut lui enlever son manque de fraîcheur. Le médecin, aussi bon soit-il, a peut-être essayé de lui dire qu'il ne peut rien faire de plus, mais nous la montons en ce lieu.
Amen.
Lorsque vous êtes vieux et que vos jours sont presque écoulés, cela ne signifia rien pour Abraham lorsqu'il vint dans la présence de Dieu. À l'âge de 100 ans, il plut à Dieu et ne considéra pas son corps qui était alors mort. Il était dans la présence de Jéhovah qui lui donna la promesse. Oui, cette dame âgée sur ce siège, qui est en train de mourir d'un cancer, assurée de mourir, il ne reste plus rien si ce n'est de mourir, si seulement nous pouvons l'amener. Personne ne fit entrer Aaron. Aaron pénétra, parce qu'il fut invité à entrer, parce que cela lui fut dit par Jéhovah. Il avait le droit d'entrer. Lorsque Jésus mourut au calvaire, il déchira le voile de haut en bas. Il ne prit pas seulement le souverain sacrificateur à l'intérieur, Mais chacun de ceux qui s'approchent à Dieu a le droit d'entrer dans le lieu très saint. Elle en a le droit. La dame mourante ici en a le droit. Madame Weaver est assise ici quelque part. Il y a quelques années, elle se mourait rongée d'un cancer. Ses bras étaient décharnés. Cependant, elle avait droit à l'arbre de vie. Elle avait le droit d'entrer derrière le voile. Alors que je devais la tenir pour l'empêcher de chanceler, je l'ai baptisée dans l'eau, ici même. Elle est en vie aujourd'hui, parce qu'elle avait un droit. Elle l'a accepté, elle l'a cru. Et je crois que quelque part, au fond de la salle, j'ai vu Monsieur Morgan. Madame Morgan est peut-être là. Elle était assise ici même, sur ce siège. Il fallait la soutenir. Elle était en train de mourir du cancer. Il n'y avait pas d'espoir pour elle. Mais la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole.
Amen.
Et nous l'avons fait sortir de cette condition où la fraîcheur manquait. Son mari qui est présent nous dit qu'il la transportèrent chez le médecin. Et ils dirent que le cancer enveloppait ses intestins à tel point que cela ressemblait à des racines d'arbres. Tous les espoirs s'étaient envolés. Mais le Saint-Esprit l'amena dans la présence au rafraîchissement. Il l'amena derrière le voile, puis fit tomber le rideau derrière elle. Ne vous inquiétez pas de ce que le médecin dit, peu importe ce que quiconque dit, le voile tomba et exclut tout incroyant. Puis elle avança le bras vers l'urne d'or de Dieu et dit, « Par ces meurtrissures, je suis guérie. » Elle commença à manger. Le matin suivant, il n'avait encore à manger. Le jour suivant, il n'avait toujours à manger. C'est ça, ne pas attendre jusqu'à ce qu'elle tombe à nouveau ou jusqu'au prochain réveil. Mais elle est éternelle. Elle est posée là qui attend. Et elle mange encore du même pot de manne. Qu'est-ce que c'était? La faire entrer dans le rafraîchissement. Faire que le voile tombe autour d'elle de telle manière qu'elle ne puisse écouter ce que le monde dit, mais écouter ce que Dieu dit. Entrez par le sang. Entrez par l'onction. Oint, marchez droit. Vivez droitement. Tenez la tête droite. Jusqu'à ce que vous entriez dans ses parvis. Je ne dis pas qu'un homme doit faire ceci ou cela. Ce n'est pas la manière comment vous êtes baptisé qui importe, ou l'église à laquelle vous appartenez. Dieu, par grâce souveraine, donne le Saint-Esprit à ceux qu'il désire. C'est pourquoi ces gens, ils étaient tous troublés devant Dieu. Dieu, par grâce, leur donna le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle ils vivent où ils vivent. Ils sont consacrés, ils aiment le Seigneur, ils croient qu'ils vivent en tout temps et chaque jour en sa présence. Peu importe ce qui va ou vient, que la rivière monte ou que les nuages soient bas, peu importe ce que c'est, ils continuent toujours à vivre dans la présence du roi. Qu'est-ce que c'est? Oh, vous n'avez pas été guéri. C'est seulement une illusion. Le voile est tombé. Ils ne l'entendent même pas. Ils sont là-dedans. Elles viennent à la vie. Amen. Produisons beaucoup. Parlez-leur un petit moment et vous verrez qu'il y a un parfum de sainteté chez eux. Leur conversation est assaisonnée de sel. Ils ne parlent pas de leurs voisins, ni n'essayent de faire des histoires à propos de quelque chose qui a été fait comme ceci ou comme cela. Mais leur conversation se rapporte à Christ et à sa gloire.
Amen.
C'est là qu'ils se reposent, produisant de la fraîcheur, répandant leur parfum de la nouvelle vie, la fleur et produisant du fruit chaque jour. Certains disent, vous savez, je sais qu'elle a été guérie, je sais qu'il a été guéri, alors pourquoi ne puis-je être guéri? Certainement vous le pouvez, frère. La seule chose à faire, c'est de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est, frère Branham? Prenez Dieu à sa parole, car par la foi vous êtes sauvés, et cela par grâce, non par les œuvres, pas d'émotion mentale, pas d'excitation, pas de parler en langue, pas de cri, rien, par la foi. Marchez dans la présence de Dieu et dites, Seigneur Dieu, je viens en m'appuyant uniquement sur ta parole, et je crois en toi. Vous dites, frère Branham, ne croyez-vous pas au cri ou parler en langue? Oui, monsieur, mais vous mettez la charrue devant les bœufs. Venez à Christ premièrement. Venez à Christ premièrement. Laissez simplement le Saint-Esprit prendre contrôle de vous. Commencez à manger de la manne. Elle est bonne aujourd'hui, elle sera bonne demain. Elle est bonne tout le temps, chaque jour. Maintenant, je désire vous faire remarquer autre chose à propos de ceci. La particularité de la lumière dans laquelle le croyant marche lorsqu'il est en Christ. La particularité. Maintenant, les trois parvis. L'homme justifié ici dehors marche à la lumière du jour. Parfois, il y a des jours maussades. Vous saisissez? Oh, j'espère que vous le voyez. Dieu vous bénisse. Certains jours sont maussades. Certains jours, vous ne savez pas s'il vaut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Vous marchez dans le parvis extérieur.
Certainement, vous mangez de la manne. Certainement, vous êtes un croyant. Certainement, vous avez la vie éternelle. Certainement, si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est un fait. Mais quel genre de vie vivez-vous? Chaque jour, vous sortez et dites, « Oh, la moutarde m'est montée au nez. J'aurais dit ce que je pensais. J'ai juré après eux. Je n'ai pas pu m'en empêcher que Dieu me pardonne. » Certainement, il le fera. Certainement, il le fera. Vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie vivez-vous? Oh, ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie avec des hauts et des bas, des soucis et des tiraillements, jour et nuit, rétrograde, puis de nouveau à l'église, rétrograde, puis de nouveau à l'église, ceci et cela, demandons pardon pour ceci. Cette autre personne continuelle à s'épanouir, pas de problème. Vous voyez dans quel genre de vie vous marchez, selon le temps qu'il fait. Il donne la lumière dehors, un jour maussade, brumeux ou entre deux, puis un jour ensoleillé, puis un maussade, puis un brumeux et un nuage devant le soleil. Voilà la manière dont tout homme régénéré, justifié, vit. C'est vrai, c'est toute la lumière dont il dispose pour marcher, s'il n'a rien d'autre. Il dit, « Je suis venu à Christ, frère Branham, je me suis joint à l'Église, j'ai inscrit mon nom dans le livre, j'essaie de vivre du mieux que je peux. Eh bien, soyez bénis, frère, j'apprécie cela, Dieu apprécie cela. Si vous croyez, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous êtes mon frère, je vous aime. » Mais frère Branham, j'ai mes hauts et mes bas. Oh, je suis la personne la plus misérable. Je dois lutter chaque jour. Bien sûr, frère, car c'est là que vous marchez. Ça peut aller. Ensuite, il dit, je désire aller un peu plus profondément. Alors il entre dans le parvis. Eh bien, qu'y a-t-il là-dedans? Il y a 7 chandeliers d'or près du lieu saint, et cela donne de la lumière. Les chandeliers donnent de la lumière. C'est pour l'homme qui cesse de boire, cesse de fumer, cesse de mentir, cesse de voler, qui traite son voisin correctement, est bon vers sa femme, ou elle, bonne envers son mari. C'est pareil, homme ou femme, le croyant, il est entré en un lieu où il a perdu toute sa méchanceté. Cela se fait à travers le sang, avec la sanctification. Il est appelé à une vie nouvelle, et il pénètre là. Il n'a pas besoin de marcher par la lumière qui se trouve là, dehors. Il a une meilleure lumière. Il marche à la lumière de 7 chandeliers d'or, qui brûlent de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive représentait le Saint-Esprit. Le feu était le baptême qui apporta. Vous pouvez même être baptisé du Saint-Esprit en étant là. Mais vous n'êtes pas encore caché. Vous n'êtes pas derrière le voile. Le voici. Il marche près de ces 7 chandeliers d'or. Il y a là beaucoup de lumière. Mais il y a des jours où ces lumières faiblissent. Il y a des jours où ces lampes fument et où la lumière n'est pas si bonne. Il y a des fois où ces lumières doivent être rallumées et vous devez emprunter un peu du voisin pour allumer d'une chandelle à l'autre. Ce n'est pas encore une bonne lumière. Nous en sommes reconnaissants, mais ce n'est pas encore la bonne lumière. Oh, frère, vous voyez, ce n'est pas encore la bonne lumière. Vous dites, frère, j'ai parlé en langue, j'ai crié. C'est merveilleux, mais laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Très bien, il marche dans cette lumière. C'est une lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière du soleil, de la lune ou des étoiles. Lorsque la nuit vient, l'homme dans les parvis de la justification a une lumière très faible. Juste celle des étoiles, peut-être d'une lune pâle, devant laquelle beaucoup de nuages passent. Il est dans un affreux pétrin. Mais l'homme qui est ici se tient dans la consécration et dit, « Seigneur, je vais vivre près de toi. Je suis le diacre de l'église, ou quelque chose d'autre. Je vais être bon avec mon voisin. Je vais essayer de faire de mon mieux, Seigneur. » Bon, il vit une vie meilleure. Sa lumière s'éteint rarement. Mais les lampes fument, et on doit se servir de l'une d'elles pour allumer les autres. Mais l'homme qui avance plus loin et entre se trouve alors à l'abri du monde, le voile retombant autour de lui. Il se tient sous l'endroit où les ailes des chérubins se rencontrent, près de la grande gloire de la Shekinah. Elle ne faiblit jamais, elle ne s'éteint jamais. Et l'homme qui vit dans la présence de Dieu sous le voile vit dans la gloire de la Shekinah. Peu importe si les tempêtes font rage, qu'il y ait des nuages, que la lune et les étoiles ne brillent pas. Lorsque les chandeliers s'éteignent, cela n'a pas d'importance. Il vit dans la gloire de la Shekinah de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Elle ne s'est pas éteinte une nuit. Elle ne s'est pas éteinte. C'est une lumière, une espèce de lumière mystique, une sorte de lumière à l'éclat doux. Et le croyant au repos marche à l'intérieur du voile. La gloire de la Shekinah, près de l'urne de manne, où il mange chaque jour, ne s'éteint jamais. Il mange de la manne. Oh là là, il n'a pas le moindre souci au monde. Toute chose a été prise en charge. Dieu est au-dessus de lui, à l'écoute de sa prière, et répondant à sa prière. Non seulement ça, mais il vit dans la présence même du roi. Dieu dans la gloire de la Shekinah. Chaque fois que quelque chose surgissait comme cela, ça ne pouvait l'atteindre. Il ne l'écoutait pas, il ne pouvait pas. Les gémissements du monde étaient à l'extérieur. Si jamais vous venez à Christ, mon ami, en un lieu où le monde est mort, oh, que vos enfants, que votre mère soit ainsi, que votre papa ait parlé de cette manière, ou que votre pasteur ait dit cela, que le médecin ait dit ceci ou cela, vous ne l'entendez même pas. Vous vivez seulement dans la gloire de la Shekinah. Vous marchez, vivez dans la présence du roi. Chaque jour est doux à votre âme. Oh là là, tout est bien, rien ne peut vous faire du mal. Oh, quel endroit! Oh, je pense à ce petit cantique, j'ai traversé le voile déchiré, alléluia son nom, je vis dans la présence du roi. Vivre, traverser le rideau déchiré, où la gloire jamais ne s'éteint, je vis dans la présence du roi. Je marche dans la lumière, la splendide lumière, elle vient où les gouttes de rosée de la miséricorde sont lumineuses, brille tout autour de nous, jour et nuit, Jésus, la lumière du monde. Donne-lui de se cacher, et donne-moi de perdre mon moi, et de le trouver en toi, Seigneur. Que tout moi soit crucifié, que mes voisins racontent des ragots, que ceci ou cela disparaisse, je vais à l'église, dans un but, c'est de rester en ta présence.
Amen.
Je suis entré là, Seigneur, et je ne désirais jamais repartir. Je croirai ta parole, ce que tu dis, voilà où je veux être. Laisse tomber les voiles autour de moi, Seigneur, afin que je ne puisse voir que Jésus-Christ est vivre, marcher, mourir en lui.
Amen.
Voilà, c'est cela. Sur la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus fut transfiguré devant les apôtres et qu'ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Ils dirent qu'ils avaient vu là seulement Jésus. « Oh Dieu, cache-moi en ce lieu! Cache-moi en ce lieu !» Lorsque les voiles tomberont là, je ne verrai rien d'autre que Jésus lui-même. Je ne veux pas entendre des excentricités du monde. Ça m'est égal qu'ils aient des bombes atomiques, qu'ils aient un avion réaction, que les nouvelles Chevrolet paraissent plus belles que les Buick. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que je marche et vive avec Christ. Chaque jour, il est mort à lui-même et les voiles pendent tout autour. Et que je sois en lui et lui en moi.
Amen.
Que les tempêtes fassent rage. Mon ancre tient à l'intérieur du voile. Je ne puis vous dire pourquoi nous avons beaucoup de tempêtes sur les mers en ce jour. Mais je suis reconnaissant pour l'ancre qui tient fermement à l'intérieur du voile. Lorsqu'il se balance et qu'il sent que chaque mouvement devrait l'envoyer par le fond, mon ancre est dans le voile. Je suis ancré dans le voile. Je suis ancré en Christ. Je braverai les tempêtes de la vie. Je suis ancré en Christ. Je ne crains ni vent ni vague. Je suis ancré en Jésus, car il a le pouvoir de sauver. Je suis ancré dans le rocher des âges. Que Dieu nous aide ce matin à pénétrer dans cette vie intérieure. Cessez de rester dehors où vous flottez à tout vent de doctrine, par chaque petite chose qui survient. Ne savez-vous pas que la Bible dit comment dans les derniers jours, des hommes viendraient, seraient semblables à des anges de lumière? Comment ils se vengeraient que les démons, les pasteurs sont des anges de lumière? Ne réalisez-vous pas qu'Ève cherchait une nouvelle lumière lorsque le diable lui parla et qu'ainsi, elle fut responsable de chaque cimetière, responsable de chaque hôpital psychiatrique, responsable de chaque maison de redressement, responsable de chaque mort, de chaque chagrin, de chaque bébé mourant de faim, de chaque maman mourante? Elle cherchait quelque chose de nouveau. Elle cherchait quelque chose de nouveau. Oh Dieu, reprends-moi dans la gloire de la Shekinah. Prends-moi dans le voile avec toi. Je suis satisfait avec Jésus. Seigneur, fais-moi perdre mon moi pour le trouver en toi. Pénétrez dans le voile intérieur où tous les hurlements du monde. La Bible a dit que dans les derniers jours, il viendrait une famine sur la terre. Pas de pain et d'eau seulement, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens iront de l'est à l'ouest, partout pour essayer de la trouver. Cette heure est arrivée,
Amen.
Où les hommes s'élèvent comme des dieux et désirent être glorifiés. Lorsque les gens disent, oh, le docteur tel est tel, et le grand tel est tel, le vieux Paul a dit, je crains une chose, c'est que vous essayez de m'adorer moi au lieu des choses que je prêche. Je ne suis jamais venu à vous avec les paroles séductrices de la sagesse humaine, mais dans la puissance de résurrection de Jésus-Christ, afin que vos espoirs soient fondés là-dessus. Aujourd'hui, c'est un jour horrible. Les gens sont disséminés de tous côtés. Il y a quelques semaines, j'étais à un endroit où une grande tente était dressée. Ce n'est pas pour critiquer, que Dieu me pardonne si c'est le cas. Et un homme disait qu'il pouvait chasser les démons, ce dont je ne doute pas. Mais les démons ne sont pas chassés par une vie cruelle et indifférente. L'arme la plus puissante qu'il y a au monde, c'est l'amour.
Amen.
Un soir dernièrement, j'étais avec une petite dame que son mari envisageait de quitter pour épouser une autre femme. Un couple réputé pour être très bien. Je l'ai regardé. Elle a dit, eh bien, je vais partir, sœur Branham. J'ai dit, sœur, ne faites pas ça. Elle a dit, oh, mon mari, son ministère va être ruiné. Que puis-je faire? Je vais aller à New York et je vais me trouver un travail. J'ai dit, sœur, ne le faites pas. Ne le faites pas. Que puis-je faire, sœur Branham? Je répondis, allez vers lui. Elle ajouta, j'ai trouvé les photos de cette dame et je les ai déchirées et j'ai fait ceci et cela. Je me suis tenu là et j'ai dit, je vois. Mais j'ajoutais, allez vers lui, mettez vos bras autour de lui et dites, chérie, peu importe ce que tu as fait, je t'aime toujours. Ça ira. C'était juste. Un jeune est venu vers moi il n'y a pas longtemps. C'était un pentecôtiste. Il avait vu trop de ces réunions. Elle va, et sa femme était une fervente luthérienne. Elle disait, eh bien, je pense que vous êtes tous allés là-bas hier soir, et que vous avez poussé des cris. Elle disait, je pense que vous parliez tous en langue, et que vous avez fait toutes ces choses hier soir. Il se leva et dit, oh Dieu, je chasse le diable hors d'elle. Je chasse le diable hors d'elle. Presque un cas de divorce. Un homme bien, il est venu vers moi et a dit, frère Branham, nous allons divorcer, je crois. Je n'arrive pas à faire sortir ce démon d'elle. J'ai dit, frère, vous vous y prenez mal. J'ajoutais, lorsqu'elle commence comme cela, dites, très bien, chérie, que ton cœur soit béni, mon amour. Soyez vraiment gentil avec elle. Voyez tout ce que vous pouvez faire pour elle. Il a dit, frère Branham, comment arriverai-je jamais à chasser le diable hors d'elle? J'ai dit, faites comme je dis, et continuez à prier dans votre cœur. Vous voyez, Dieu s'occupera du reste.
Amen.
Il m'a téléphoné 2 ou 3 semaines plus tard pour me dire, mon foyer est révolutionné, ma femme est une personne différente. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle plus puissant, crier, se cabrer, taper du pied, ou passer vos bras autour d'elle avec amour? Dieu est amour, Dieu a tant aimé le monde. Depuis que par la foi j'ai vu le flot qui sortait de ta blessure, l'amour rédempteur était mon thème et le sera jusqu'à ma mort. C'est juste. Un homme qui parlait dit, cette femme a 3 démons, l'un d'eux s'appelle Jeff, l'autre Beth, elle ne nomma pas le dernier. Et des centaines et des centaines de gens intelligents étaient assis là, soutenant cette réunion. Ils disaient, l'un d'eux est vert, l'autre est bleu et le dernier est rouge. Je pensais, oh Dieu, c'est tellement faux. Ne laisse pas cela arriver, oh Dieu. Ces gens qui faisaient tant d'efforts pour essayer d'atteindre le royaume de Dieu, elles se réunissent par centaines pour écouter de telles bêtises. Vous savez pourquoi? Ils n'ont jamais été à l'intérieur du voile, c'est certain. Si jamais ils s'y trouvent, ils auront une autre opinion. Mes brebis connaissent ma voix, elles ne reconnaîtront pas un étranger. Oui, monsieur. Vous pouvez passer par toutes sortes d'émotions, vous conduire n'importe comment et invoquer le nom de la religion. Les païens font la même chose, mais donnez-moi une vie consacrée qui est morte et est ressuscitée en Jésus-Christ, qui vit dans la gloire de la Shekinah, entourée de l'amour de Dieu. C'est la personne qui, je crois, sera là. Placez-moi sous le voile, sous le sang du Seigneur Jésus. Prenez tous vos dons que vous trouvez dans les Écritures. Le diable peut imiter chacun d'eux, mais il ne peut pas imiter l'amour, parce que l'amour est authentique. Le diable ne peut pas aimer. Voilà une chose qu'il ne peut pas faire. Et lorsque vous arrivez au point où vous aimez les uns les autres et où tout le monde est mort, si vous aimez Dieu... Dernièrement, je parlais à une femme qui m'injuriait comme je ne sais quoi. Elle était sur le point de presque de me donner le fouetté. J'étais assis avec un autre homme. Elle dit, si vous passez par là, j'appelle la police. Je dis, voyons, chère sœur, j'étais seulement... Nous sommes des chrétiens. Nous ne ferions pas cela. Elle dit, des chrétiens, ça n'existe pas. Vraiment méchamment. Elle nous injuriait terriblement. J'ai dit, mais madame, il y a, je dis, ne croyez-vous pas en Jésus-Christ? Elle dit, oh, je crois en lui, mais pas dans les gens. Je dis, vous ne pouvez pas croire en lui sans croire son peuple. Vous ne pouvez pas. Oh, elle n'arrêtait pas de me maudire. Je sortis de la voiture et m'approchai d'elle. Je dis, sœur, nous désirons seulement passer par ici. Ça ira bien comme ça. Je dis, je ne leur ai rien, pas fait pour rien au monde. Et j'ajoutais, je travaille ici. Elle dit, c'est comme ça qu'agissent les gens comme vous. Vous croyez que vous pouvez nous écraser, nous les vieux? Je dis, non, non, non. Si vous ne voulez pas que nous le fassions, c'est très bien. Mais je ne sais pas comment nous allons sortir la voiture d'ici. Nous sommes entrés parce que votre mari nous a dit que nous pouvions le faire. Je me moque de ce qu'il a dit. Vous n'allez pas le faire. Et je dis, eh bien, nous sommes entrés ici. Elle dit, vous ne pouvez pas sortir en passant dans cette cour maintenant. Je dis, madame, vous voyez cette boue? On ne pourra jamais bouger plus de 3 mètres de l'endroit où nous trouvons maintenant. Je dis, elle dit, c'est votre affaire. Mais si vous traversez par ici, je vais appeler la police. Je dis, c'est votre droit et je regrette de n'être pas venu vous voir après votre mari. Je suis désolé. Elle, oh, elle était furieuse, elle soufflait, tempêtait et agitait son poing devant ma figure et tout le reste. J'étais assis là avec une vieille paire de salopettes et je dis, eh bien, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Je n'aurais fait pour rien au monde. Sœur, j'ai honte de moi. Votre mari a dit que c'était en ordre. Elle dit, Vous les jeunes, vous croyez que vous pouvez nous écraser, nous les vieux. Je dis, c'est sans doute ce qui est arrivé souvent dans le voisinage. Mes sœurs, nous sommes chrétiens. Je ne vis pas ici, je travaille seulement ici pour aider un frère. Elle dit, vous travaillez ici? Que faites-vous ici? Je répondis, je suis pasteur, un révérend. Elle me regarda de haut en bas. Elle dit, un révérend. Je dis, oui madame. Elle dit, que faites-vous ici? Je répondis, j'essaye de faire une bonne action pour aider quelqu'un. Comment vous appelez-vous? Je dis, je m'appelle Branham. Elle demanda, êtes-vous frère Branham? Je répondis, oui. Elle dit, pardonnez-moi. Et ses lèvres commencèrent à trembler. Elle se mit à pleurer. Elle dit, je suis une méthodiste rétrograde. J'ai honte d'avoir agi comme je l'ai fait. Je dis, que Dieu vous bénisse, sœur. Retournez à l'église, voulez-vous? Servez le Seigneur Jésus. Vous voyez, si vous aviez bondi et fumulé contre elle, et lui aviez dit ce que vous aviez le droit, etc., et que vous voyez ce que vous auriez fait? Juste quelques mots d'amour descendent dans le cœur. Frère, faisons entrer les gens derrière le voile. C'est vrai. Voulez-vous connaître un petit secret? C'est ainsi que je dompte les bêtes sauvages. C'est ainsi que je dompte les maladies. Par l'amour. L'amour de Dieu nous pousse à faire une telle chose. Venez derrière le voile. Ne voulez-vous pas le faire aujourd'hui pendant que nous inclinons nos têtes pour un moment de prière? Si la sœur veut bien venir au piano. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voyant que notre temps avance, nous aimerions, Père, que chaque personne qui se trouve maintenant dans la présence divine entre derrière le voile. Il y a ici des jeunes hommes et des jeunes femmes, d'autres d'un certain âge, des petits-enfants, de jeunes adolescents. Nous te prions, Père, d'emmener chacun d'eux derrière le voile ce matin, et ainsi de les cacher en toi, en Christ, jusqu'à ce qu'ils soient nés de nouveau. Ainsi, l'espérance de la gloire, l'espérance de Dieu reposeront en eux. Et lorsque les épreuves de l'ennemi surviendront, ce sera si loin, en dehors du voile, qu'ils ne l'entendront même pas. Ils verront seulement Jésus, vivant dans sa gloire de la Shekinah, vivant dans ses bénédictions, où ce halo de lumière qui est maintenant dans le tabernacle, puisse-t-elle habiter dans chaque cœur, Père. Puisse cette lumière être considérée autrement qu'intellectuellement, comme quelque chose qu'on regarde sur une photographie, ou même qu'on voit d'un œil naturel. Puisse-elle entrer dans leur cœur, Seigneur, et là y habiter. Elles viendront dans cette présence de Dieu, qui leur donnera chaque jour une vie fructueuse et bénie pour le Seigneur Jésus. Ne veux-tu pas l'accorder, Père? Pendant que nous avons nos têtes inclinées, notre sœur va jouer ceci sur le piano. Il y a une fontaine remplie de sang. C'est le chemin pour entrer. Venez à l'autel. Cela vous conduit dans la gloire de la Shekinah. Tirez des veines d'Emmanuel, et les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute trace de leur culpabilité. Maintenant, y aurait-il quelqu'un ici ce matin qui aurait pris dans son cœur une décision pour Christ? Dites, ô Dieu, j'ai pris ma décision. Je ne veux plus vivre cette vie avec des hauts et des bas. Je viens à toi maintenant, m'appuyant sur le sang versé, sur ta parole. Je viens maintenant et je l'accepte. Je lève la main vers toi, Seigneur Dieu, pour montrer que je vais le faire dès aujourd'hui. Dieu vous bénisse, sœur, c'est bien. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, frère, c'est bien. Maintenant, Dieu vous bénisse, frère. Je vous vois ici. Dieu vous bénisse, sœur. Assurément, il vous voit. Dieu vous bénisse, mon frère. Aujourd'hui, je viens, Seigneur. Je suis fatigué de vivre à la lumière de la chandelle. Je suis fatigué de vivre à la lumière des étoiles, de la lune et du soleil. Je désire la gloire de la Shekinah, Seigneur, qui ne faiblit pas lorsque l'obscurité vient. Dieu vous bénisse, sœur. Dès aujourd'hui, Dieu vous bénisse, petite dame. Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse, maman. Dieu te bénisse, petit garçon. C'est bien. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, je ferai tout. Je viens à toi. Tu ne me jetteras pas dehors. Tu ne peux pas me jeter dehors, parce que tu as promis que tu ne le ferais pas. Je viens, je l'accepte maintenant. Je vais le croire. Dieu vous bénisse, sœur. Je vais vivre dans la gloire de la Shekinah. Lorsque les vieilles inquiétudes et les soucis surgiront et que tout essaiera de m'ébranler, de me faire faire ceci, penser du mal de cela, faire ceci mal et dire cela, je resterai simplement ancré dans le voile et je regarderai la gloire de la Shekinah et désormais je vivrai seulement avec toi. Y en a-t-il encore un avant que nous prions? Dieu vous bénisse, madame. Vous et vous, Dieu vous bénisse. Oh, une ou deux douzaines de mains se sont levées. Très bien. Maintenant, je vais vous dire ce que je désire que vous fassiez. Nous savons que nous avons la coutume que tous viennent autour de l'autel et prient. C'est bien. Cela a commencé à se faire dans l'église méthodiste, au XVIIe siècle environ. Dans la Bible, on ne l'a jamais fait. Dans la Bible, ce qu'on avait, c'est que tous ceux qui croyaient étaient sauvés. Maintenant, je désire que vous restiez assis où vous êtes et que vous incliniez la tête avec moi. De même que je prie, je veux que vous priez, dites au Seigneur, « Seigneur, maintenant oubliez tous les soucis du monde et qui est assis à côté de vous. » C'est peut-être la dernière fois que vous avez une chance d'entrer dans le royaume de Dieu. Je prie Dieu de vous ouvrir les portes de la grâce aujourd'hui et que ce soit le moment. Maintenant, nous allons prier pendant que nous avons nos têtes inclinées. Père Céleste, je t'apporte. Maintenant que la semence était répandue de l'estrade, Seigneur, et que le Saint-Esprit l'a fait tomber ici dans les cœurs de 50, voire 60 personnes ou davantage, qui ont levé la main et ont dit, « Par ceci, maintenant, nous venons à toi. » Permets, Père, que les portes de leur cœur s'ouvrent toutes grandes. Ils ont été, beaucoup parmi eux, Père, ont déjà la vie éternelle. Ils vivront à jamais. Il doit en être ainsi parce que tu l'as dit. C'est la raison pour laquelle les pensées que nous formulons sont si positives. Il doit en être ainsi, tu l'as dit. Maintenant, Père, nous te prions, au nom de Jésus, de les amener dans une communion plus étroite. Ils ont été ballottés, Satan les bat. Ils peuvent entendre les gémissements et les plaintes du diable, qui les pousse toujours à faire le mal, à dire du mal et à tout écouter. Nous te prions, Père, afin que le voile tombe aujourd'hui entre eux et le monde, et qu'ils soient cachés en Christ. Plus besoin d'errer, restez bien là, dans sa gloire, chaque jour, à lire la Bible, à le louer, doux, humble, tranquille. Des chrétiens remplis de l'Esprit, accorde le Seigneur, nous te les recommandons maintenant, tout en te les confiant, au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen.
There is a fountain on ground, Emmanuel.
Tiré des veines d'Emmanuel. Et les pêcheurs plongés dans ce flanc perdent toute trace de leur culpabilité. Dans un instant, nous allons avoir le service des guérisons. Je désire que chaque cœur soit attentif maintenant. Combien sont qu'aujourd'hui, qu'à partir de ce jour, par la grâce de Dieu, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous croyez que vous allez marcher dans la présence de Dieu. Marchez droit avec la bonne onction. Que serait la bonne onction? Conformément à la parole, l'amour, la paix, la joie. C'est ça l'onction. Marchez comme cela jusqu'à ce que Dieu soulève le rideau, me prenne à l'intérieur et m'isole du monde autour de moi. Voulez-vous le faire? Levez la main. Par la grâce de Dieu, vous le ferez. Merci et que Dieu vous bénisse. Faites cela, mes amis. Je vous le dis, cela battra toute émotion ou tout don ou n'importe quoi d'autre que vous pourriez rechercher. Si simplement vous trouvez Christ ainsi dans votre cœur, c'est ce qui m'a aidé. J'ai tenu mon papa dans les bras, et j'ai vu ses cheveux retomber, elle m'a regardé, et est allée rencontrer Dieu. J'ai vu mon frère là-bas, qui luttait, les veines sectionnées, le cou brisé, et le sang qui coulait de sa bouche. Et j'ai regardé ma femme, elle a dit, « Je te retrouverai là-bas, de l'autre côté, Billy. » Le jour suivant, j'ai posé ma main sur mon bébé, en voyant sa petite jambe qui tremblait. J'ai dit que ton petit cœur soit béni, Sharon. Papa te retrouvera de l'autre côté. Mon oncle est un bon. Vous voyez, elle n'est pas basée sur des émotions. Rien que j'ai ressenti ou c'est ce que Dieu dit à ce sujet. Je l'ai cru. Aujourd'hui, après mes 23 ans de ministère, elle tient toujours aussi solidement. Si ce n'est davantage, elle s'enroule progressivement autour de la croix parce qu'elle m'attire tout le temps plus près d'elle. Que Dieu accorde à chacun de vous l'expérience de vivre une vie intime et consacrée. Amen. Venez écouter bien maintenant, avant que je termine là-dessus. Ce n'est pas la bénédiction que vous recevez, et le fait que vous criez, glorifiez Dieu. Ces choses sont bonnes, vous mangez de la manne, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cela que je parle ce matin. Ce n'est pas de savoir si vous vous êtes levé, avez parlé en langue, ou si vous avez crié, couru à travers la salle. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de cette vie cachée en Christ, où tout le temps... Jour et nuit, vous vivez simplement en lui. C'est de cela que je parle. Maintenant, il est ici. Je souhaiterais être un guérisseur ce matin. Si j'en étais un, je guérirais les malades. Je ne peux pas guérir les malades. Je ne suis qu'un homme. Mais le guérisseur lui-même est ici, le Seigneur Jésus. Maintenant, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Voyez, Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Elle priait avec instance qu'il ne plût pas. Et ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau avec instance, et le ciel donna de la pluie. La prière change les choses. Je ne peux pas les changer. Vous ne pouvez pas les changer. C'est la prière qui les change. Dieu dit une fois à un homme qu'il allait mourir, qu'il devait mettre sa maison en ordre. Il envoya le prophète lui dire. Et l'homme se tourna vers le mur, commença à pleurer, et demanda à Dieu de pouvoir vivre encore 15 ans. Et Dieu changea le cours des choses, et lui donna encore 15 ans. Qu'est-ce que c'est? La prière. Maintenant, nous changeons de sujet, juste quelques minutes. Je ne suis pas souvent avec vous. J'espère être à nouveau ici dimanche prochain, Dieu voulant. Mais je me demande, ce matin, lorsque je suis venu, ma femme a dit, « Tu veux aller? Tu es enroué et tout le reste. » J'ai dit, « J'ai promis. J'y vais de toute façon. » Regardez, je veux vous dire quelque chose. Maintenant, je sais que la prière, c'est la première fois que je prie ainsi pour les malades depuis que quelque chose m'était confié, comme vous savez. Et Dieu sait que c'est vrai. Ce ne sera pas en public comme auparavant. Bien sûr, dans les églises, au cours des réunions, ce sera comme ça. Mais je parle de cette autre catégorie, soit celle dans laquelle nous entrons maintenant. Mais cela, je sais, j'ai confiance. J'ai observé tout du long. Maintenant, si je serais prêt à changer de place aujourd'hui avec un homme qui prêche l'Évangile, si c'était la volonté de Dieu que je sois un prédicateur. Je ne suis pas tellement prédicateur parce que je ne suis pas instruit et que je ne connais pas bien la parole, etc. Ainsi, je ne peux pas prêcher, mais mon travail, c'est de prier pour les malades. Et j'ai remarqué dans les réunions à différents endroits ce que la prière fait. Quel effet elle a? Combien reçoivent le Christian Life, la revue Christian Life? Avez-vous remarqué là-dedans l'article surprenant de ce médecin de Chicago, ou je crois de Wheaton, Illinois? On lui a demandé, croyez-vous à la guérison divine? Existe-t-il une telle chose? Il a dit, maintenant vous m'avez posé une question. Guérison divine, que voulez-vous dire? Des miracles ou la guérison? Il a dit, la guérison certainement. Vous priez pour les malades et les malades sont guéris. Alors il y a un miracle, que la maladie disparaît juste devant vous. Il dit, l'un à l'autre, je crois certainement cela. Mais dit-il, ces sectes où l'on ne mentionne pas le sang, comme par exemple les unitaires et les scientistes, etc., je ne suis pas d'accord avec cela. Maintenant, le sang de Jésus-Christ guérira en tout temps. Eh bien, c'était un médecin, vous voyez, ils savent cela. Alors Dieu en établit certains dans l'Église pour prier pour les malades, d'autres pour enseigner ou faire différentes choses. Est-ce vrai? Il fait cela, et à côté de cela, il donne parfois différents dons aux gens. Cela n'a rien à voir avec le salut de votre âme. Mais sachant qu'il m'a appelé pour prier pour les malades, je désire, pour votre confiance, et Dieu sait dans mon cœur que je ne veux pas parler personnellement. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Regardez ce qui s'est passé dans le pays. Représentez-vous la chose dans votre esprit, dans quelques minutes. Regardez ce qui est arrivé ici l'autre jour. Vous avez tous entendu parler de cette vieille mère opossum, là-bas dans les fourrés. Elle est sortie, toute mordue par des chiens, je pense, toute abîmée. Et pourquoi Jéhovah Dieu a-t-il voulu pour une chose qui n'a même pas d'âme, une vieille mère opossum ignorante, l'amener devant ma porte et que moi, si bête, je n'ai pas su. Elle est restée là 24 heures. J'étais assis dans ma chambre et elle dit, comme une dame, elle est restée là 24 heures pour que tu pries pour elle, attendant son tour, et tu ne l'as pas encore fait. La petite Rebecca était là dans la chambre. Je suis sorti et j'ai dit, Père Céleste, pardonne-moi, je ne savais pas cela. Alors je te prie de guérir cette mère opossum. C'est tout ce que j'ai dit. La vieille mère opossum s'est levée, m'a regardé, a rassemblé ses petits, comme pour dire, « Merci, monsieur !» Sans même boiter, elle est sortie par le portail et est descendue la route. Vous voyez, une vieille mère opossum, ignorante. Certainement. Dieu la dirigea là. Ne le croyez-vous pas? Comment conduisit-il Bosworth? Oh, regardez dans le pays des centaines, par des rêves et des visions. Et comment tout s'est passé? Alors ça me rappelle ceci. C'est qu'il me rencontra là, lorsqu'il se tint à mes côtés. Il dit, tu es né dans ce monde pour prier pour les malades. Il dit que ton ministère commencera, il balayera le monde. Et il l'a fait.
Amen.
Regardez les campagnes de guérison. Des millions dans le monde sont maintenant guéris. Je ne pouvais pas prendre toute cette charge. Certainement pas. Mais j'ai commencé par la grâce de Dieu. Et cela a gagné le monde entier, ce grand réveil. L'autre soir, j'étais assis, j'ai presque terminé. Un soir, il y a quelques mois, avec un groupe de pasteurs, réunis dans une campagne de guérison, chacun d'eux devait raconter une expérience personnelle. Ils ne savaient pas que j'étais là. J'étais assis dans ce grand stade, le col de mon manteau remonté comme ceci, mon postiche sur la tête, avec une petite paire de lunettes noires. J'étais simplement là, en train d'écouter. L'un d'eux monta sur l'estrade et dit, « Eh bien, mon ministère était pratiquement fini. Je ne savais pas que faire. » Il dit, un petit homme humble est venu. Frère Branham, cela m'a donné le coup de départ. L'autre monta et dit, comme pour le frère qui a témoigné, il en était de même avec moi. Il dit, j'étais passé dans une petite église et un soir, je suis rentré à la maison. Il ajouta, tout a commencé là. J'étais assis là en train de pleurer. Je me suis levé et suis sorti de l'immeuble. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Il a dit ceci. Je pensais, oh Dieu, c'est exactement ce que tu as dit qui arriverait. Exactement. Eh bien, me voici ce matin, mes amis. Je suis un très médiocre serviteur du Seigneur. J'ai eu tellement de manquements à son égard que j'ai honte de moi. Je me sens même indigne de servir ces chers enfants malades. Mais je ne regarde pas à mon mérite, car je n'en ai pas. Je regarde à ce qu'est sa grâce. Vous voyez, c'est ce qu'il est pour moi et ce que je suis pour lui. Je suis son enfant, il est mon Seigneur. Si mes mains ne sont pas pures, les siennes le sont, et ce ne sont pas les miennes que j'utilise. J'essaie seulement de m'abandonner à lui afin qu'il puisse œuvrer à travers moi. Je suis très heureux d'avoir vécu derrière ce voile, où les choses du monde, lorsqu'ils ont dit, vous ne pouvez pas le faire, voyons, vous êtes faux. Il y a quelque chose de dérangé sur le prédicateur Branham là-bas. Regardez-le, eh bien, il est devenu fou. Lorsque j'étais à cette rencontre pastorale là-bas, à l'hôpital juif, et que ce groupe d'hommes était assis là, combien ils essayèrent de me dire, voyons, vous perdez l'esprit, comment, vous ne pouvez pas faire ça, et vous, priez pour des rois. Je dis, c'est ce qu'il a dit, ça ne faisait aucune différence ce qu'il disait. Je l'ai fait tout de même, Dieu l'a fait. Il n'a pas regardé à mon ignorance n'aurait jamais pu y parvenir. Mais ce n'était pas mon ignorance, c'était sa grâce, il était celui qui l'a fait. Et c'est sur cette grâce seule que je compte ce matin, alors que je vais prier pour cette femme mourante et pour d'autres. Non seulement, vous êtes aussi serviteur de Dieu, la prière fervente, la congrégation en prière. Voici une femme étendue sur la civière ce matin. Il y a d'autres personnes mourantes assises ici. Il y a une qualité, un don, certainement. Ce n'est même plus remis en doute, en question par le monde, après 10 ans. Vous pouvez venir à cette estrade et en présence de Dieu, vous ne pourriez cacher votre vie si vous deviez le faire et vous dire exactement ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Vous savez que c'est la vérité, mais ce n'est pas ce qui guérit, c'est la prière de la foi qui sauve le malade, certainement. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est prier pour les malades. Maintenant, je désire vous voir comme il faut. Je pense, qu'en serait-il si c'était ma mère qui était étendue ici? Qu'en serait-il si c'est peut-être la mère de quelqu'un? Et si c'était ma femme, assise là au fond, ou quelqu'un d'autre qui est malade, je serais sincère, je prierais. Il y a une femme qui est entrée en marchant maintenant, Madame Ruth, et fut amenée sur une civière comme cette femme. Elle se mourait du cancer. Ici même, à Jeffersonville, où la réunion avait lieu à l'école secondaire, elle se mourait du cancer. La voici, elle n'a plus été ennuyée depuis lors. Elle est rentrée chez elle et fut guérie. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, j'aimerais, sœur, que vous jouiez le grand médecin et proche maintenant, le compatissant Jésus. Je désire que tous ceux qui vont rester maintenant pour la continuation de la réunion restent tranquilles une minute. Prions. Je l'appellerai la ligne de prière dans un instant. Tout d'abord, je crois que je vais descendre prier pour cette femme sur la civière afin que nous ayons de la place. Je désire que vous gardiez tous la tête baissée. Je désire que chacun prie sincèrement maintenant. Sœur, ici sur la civière, la maman, je vous parle maintenant. Je désire que vous ayez la foi maintenant et que vous croyez. Je désire que vous croyez tout votre cœur. Prions tous avec respect si vous le voulez bien. J'appellerai, je reviendrai sur l'estrade lorsque nous aurons prié pour cette dame et ensuite nous laisserons les gens l'emmener dehors ou la déplacer de côté. Je désire donc prier d'abord pour elle afin qu'elle puisse libérer le passage. Pouvons-nous prier maintenant, notre Père Céleste? Oui, il y a un grand médecin. Il y a du baume en Galade. Et là, étendu sur une civière ou assis quelque part, se trouve ton peuple qui souffre ce matin. Dans ce monde sombre, enténébré dans lequel nous vivons, ô Dieu éternel, béni du Père, nous te prions d'étendre ta grâce à ces gens aujourd'hui, et chacun d'eux sera guéri. Puisse-t-il maintenant entrer près de la manne? Tu as ouvert la porte ce matin, afin que quiconque le désire puisse entrer. Le mur de séparation a été abattu, si bien que juifs, gentils, grecs, esclaves et hommes libres peuvent entrer par la même porte, la porte de la bergerie. Tu es la porte, et nous y venons à travers Jésus, ô Dieu, pour recevoir ses bénédictions. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, je viens prier pour les malades. Veux-tu les guérir aujourd'hui, Seigneur? Nous te remercions pour notre cher frère Neville, pour son travail courageux de pasteur dans l'église ici. pour tout ce qu'il a fait et la manière dont il a rempli son devoir à son poste. Comme un véritable serviteur, que Dieu le bénisse ainsi que sa femme et ses petits-enfants. Seigneur, puisse ces petits garçons grandir pour être des hommes comme papa. Accorde-le, Père. Oh Dieu, sois près de nous maintenant, alors que je vais mettre tout mon cœur à prier pour les malades. Je te prie d'être avec moi, Père. Donne-moi la foi et ô tout doute de mon esprit, afin que lorsque chaque personne viendra, mon esprit ne soit pas incrédule, mais que de tout mon cœur émane la foi. Accorde-le, Seigneur, afin que la foi dans mon cœur écarte les raisonnements, chasse les raisonnements et avoir la foi, et que chacun puisse être guéri. Accorde-le, Père. Maintenant, pendant que nous avons nos têtes inclinées, je vais prier pour la sœur. Soyez tous en prière maintenant. Mais Dieu a touché son corps. Elle est entièrement rétablie. La voici qui marche en glorifiant Dieu. Vous qui désirez que l'on prie pour vous, montez de ce côté pendant que nous prions. Pendant que la dame était étendue là, je lui ai demandé. Elle m'a dit comment elle était tombée et ce qui lui était arrivé à la cheville et aux côtes. J'ai dit, oh Dieu, si tu veux me confirmer ceci ce matin, je ferai la même chose que tu m'as dit de faire lorsqu'elle était ici. Fais lever cette femme et fais-la marcher à travers la salle. Et immédiatement après que l'on eut prié pour elle, elle s'est levée, on a emmené la civière et voici la femme qui marche. Amen. Le Seigneur Jésus est ici, mes chers frères et sœurs. Je ne peux pas vous guérir, mais vous êtes sur le point de voir, je crois, l'un des plus grands réveils que nous ayons jamais eu. C'est vrai, dans ce pays. Je sais simplement que quelque chose est en préparation maintenant. Alors que vous passez maintenant, afin que l'on prie pour vous, que chacun dans la salle soit en prière pendant que notre sœur joue. Frère Neville et moi prierons et imposerons les mains malades pendant qu'ils passent de ce côté en regagnant leur siège. Certaines personnes ont une fausse idée de ce qu'est l'onction. Y avez-vous déjà pensé? Quand la plus grande onction a-t-elle été donnée à quelqu'un? Et qu'ont-ils fait lorsqu'ils eurent l'onction? La plus grande onction qui ait jamais été donnée à quiconque fut Jésus-Christ. Nous avons l'esprit avec mesure, il l'avait sans mesure. Un jour, il est entré dans le temple, a pris le rouleau et a lu. Il a dit, « L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour publier une année de grâce, pour réconforter les cœurs brisés, guérir les malades, rendre la vue aux aveugles. » Maintenant, si une telle onction, prophétisée 800 ans avant qu'elle arrive, était sur lui et qu'il était ici avec ce type d'onction, la pleine bénédiction et l'onction du Seigneur sur lui, nous croirions... Nous aurions envie de courir à travers la salle, de crier et de jubiler. Mais la Bible dit, il posa le rouleau et s'assit. Et des paroles pleines de grâce sortirent de sa bouche. Voilà ce qu'il fit sous l'onction. L'onction, ce n'est pas des émotions. L'onction, c'est la puissance suprême sous contrôle. Sachant exactement quoi et comment. Et c'est ce qu'il y a ici. Maintenant, il se peut que vous ne le compreniez pas en venant ici. Il se peut que vous ne puissiez le saisir. Mais voici ce que je réclame de votre foi. Venez et croyez ce que je vous ai dit et voyez ce qui arrive. Croyez simplement ce qui a été dit et voyez ce qui arrive. L'onction du Seigneur est dans le temple, le tabernacle ce matin. Amen. Prions alors que nous poursuivons. Notre Père Céleste, la sœur qui est venue à l'autel s'est sentie conduite à chanter ce cantique tout à l'heure. Tu lui parlais, elle avait besoin de toi. Elle prie comme Anne dans le temple. Donne-lui le désir de son cœur, ô Dieu bien-aimé. Nous t'aimons, Père, nous te demandons de pardonner. Donne-lui les choses qu'elle demande, alors qu'elle est à genoux, brisée et en pleurs. Sachant que ce que tu peux faire n'est pas un secret, car tu es Dieu et tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ainsi puisses-tu maintenant essuyer ses larmes. Réconforte-la de ta main, portant la cicatrice des clous, et dis-lui, fille, ta foi te sauve. Puisse-t-elle partir en paix et être recevoir ce qu'elle désire aujourd'hui. Accorde-le, Père, car nous te le demandons par amour pour Jésus. Aimez-vous le Seigneur? N'est-il pas merveilleux? Nous avons passé un moment glorieux ce matin dans cette communion. Avez-vous senti sa présence? Juste quelque chose autour de vous qui disait, « Eh bien, je suis avec toi, ne crains point, le petit bâton ne peut pas être ballotté ni subir de dommages. » Comment vous sentez-vous, madame? Bon, très bien, la dame qui était sur la civière a dit qu'elle se sentait bien maintenant. Ne sommes-nous pas reconnaissants de cela? Notre Seigneur Jésus, elle va revenir pour être avec nous, prendre place dans l'église, se réjouir et louer Dieu, est-ce juste? Je crois que dimanche prochain, nous aurons toutes sortes de gens qui voudront témoigner de ce qui est arrivé aujourd'hui. Ne le croyez-vous pas? Maintenant, que faisons-nous? Restez dans la gloire, marchez dans la lumière, marchez pas à pas avec lui, en tenant constamment sa main éternelle. Les bénédictions éternelles de Dieu restant avec vous, sachant avec assurance que Dieu ne promettra rien qu'il ne puisse faire. Lorsqu'il fut vieux, Abraham, il ne s'inquiéta pas de son âge. Il savait que Dieu pouvait faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, maintenant, Dieu ne meurt pas. Dieu vit d'éternité en éternité. Avez-vous déjà pensé que lorsque votre esprit vous quitte, si vous étiez dans la chambre à gaz, si vous étiez au fond du puits, au fond de la mer, où que ce soit, lorsque votre esprit vous quitte, ni l'eau, ni le feu, ni quoi que ce soit d'autre ne peut le retenir? Il passe directement à travers les immeubles, il est comme une vapeur, il est suspendu là, il est vivant, il ne peut pas mourir, il a la vie éternelle, il ne peut périr. Et puis, lorsque vous mourrez, vos bien-aimés pleurent, elles pensent que vous êtes mort, mais vous ne l'êtes pas, vous vivez encore ici en haut, le vieux corps est mort et on l'a mis en terre, tous les atomes, etc., que vous étiez se sont disloqués et sont retournés dans la lumière cosmique, le pétrole, etc., et sont retournés dans la terre. Un jour, le grand roi de ces esprits viendra. Jésus, il viendra de la gloire dans son corps. Amen. Il libérera la puissance de Dieu et toutes les personnes qui sont en lui, leur corps, ses atomes se rassembleront. La lumière cosmique reconstruira et en un instant, toute personne qui est en Christ sera changée en un jeune homme et une jeune femme debout sur la terre. Pensez-y. Plus jamais vieux, plus jamais malade, plus jamais de chagrin ou de soucis. De quoi nous inquiéterions-nous? Nous marchons simplement dans la lumière de Dieu. N'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux? Oh là là! Voyons si nous pouvons chanter ce bon vieux cantique. Pourriez-vous nous donner un accord? Ma foi regardant vers toi. Combien le connaissent? Nous avions l'habitude de le chanter tout le temps ici. Ma foi regardant vers toi. Toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Maintenant, entends-moi pendant que je prie. Oh, toute ma culpabilité. Oh, laisse-moi de ce jour être entièrement à toi. Je sais que nous sommes tard, mais chantons-le. Allons-y tous maintenant. Hey.